Vous pouvez vous asseoir. J'étais tellement absorbé par l'écoute d'un témoignage que j'ai oublié de prendre soin de la foule. Je suis si heureux d'être ici ce soir, au service du Seigneur, d'avoir l'occasion de rencontrer frère O'Donnell. Et j'observais ceci, la communication par signe aux sourds-muets. Et le frère me disait que la dame, l'autre soir, qui était dans le fauteuil roulant, qui avait ce gros cancer en elle, comme ça, qu'elle était guérie si miraculeusement qu'elle est sortie du fauteuil roulant. Le cancer a disparu et elle passe des moments merveilleux. Et j'en étais tellement reconnaissant. C'est bon d'être ici ce soir, frère O'Donnell. Et c'est une belle assemblée de gens, ici à... Est-ce Tempe ou Mesa? Tempe. Et maintenant, tout s'est vraiment développé ici, depuis que je suis venu dans cette région il y a environ 35 ans, si bien que je ne reconnaissais presque plus cet endroit. Et c'est vraiment agréable d'être dans la maison du Seigneur. Comme j'entrais, une petite fille se tenait là. C'est la petite Mademoiselle O'Donnell. Et une petite, deux autres petites filles. Et elle me parlait à la porte. Et j'ai dit, on m'a dit qu'il va geler ici ce soir. J'ai dit, vous les gens du Sud, vous êtes sur le point de geler ici. Alors, l'autre petite demoiselle a regardé l'autre. Elle a dit, eh bien, elle était de Iowa. Et l'autre a dit qu'elle était du Minnesota. Et j'ai dit, auparavant, j'avais dit, quand j'ai quitté la maison, il faisait moins 25. Cette petite fille de Iowa ou du Minnesota, l'une des deux a dit, eh bien, qu'il faisait moins 46 quand elle est partie. Il s'est trouvé que c'était moi qui étais du Sud. Moins 46. Si nous avions ça dans ma région, nous serions vraiment gelés. Moins 46. C'est un peu froid, n'est-ce pas, quand la température descend aussi bas. Maintenant, nous considérons que c'est un grand privilège d'être ici avec vous ce soir. Ce moment de communion fraternelle, juste avant la convention des hommes d'affaires. Et la convention commencera jeudi prochain à l'auberge Ramadan. C'est sur la rue East Van Buren. Et certainement que nous vous invitons tous à venir. Il y aura de merveilleux orateurs à la convention. Et frère Velmer Gardner en est un que je connais. Et puis, je pense qu'il y a des hommes d'affaires qui vont parler. Et je crois que Jim Brown est l'un d'entre eux. Et le Dr Reed est, bien sûr. Frère Rose est toujours là. Frère Austin du Texas. Alors je suis sûr que vous passerez des moments merveilleux en allant là-bas. Nous sommes vraiment remplis d'enthousiasme dans l'attente de cette convention. J'ai confiance que ce sera comme ça l'était l'autre fois, seulement plus glorieux. Et souvenez-vous, c'est pour tout un chacun. Tout le monde est invité. Et puis, si c'est la volonté du Seigneur, je pense que j'ai un peu de temps qui m'est réservé, où ils vont me laisser essayer de prêcher de nouveau au petit déjeuner, samedi matin, je pense. Et à la réunion de dimanche après-midi, ça, c'est si le Seigneur le veut. Et donc, je considère que c'est un grand privilège d'être là avec ces grands hommes et de donner un témoignage au Seigneur, à la gloire du Seigneur plutôt. Et je prie que Dieu bénisse frère O'Donnell ici et ce beau groupe de chrétiens ici qui séjournent en s'attendant au Seigneur. Car en vérité, nous sommes de passage. Nous sommes des pèlerins et des étrangers. Ceci n'est pas notre demeure, mais nous cherchons une ville dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Et nous ne sommes que de passage. Nous ne sommes pas ici, ce n'est pas notre demeure. Nous ne faisons que passer par ici, et cela donne un si grand privilège. Peut-être que si je le tourne de ce côté-ci, frère, cela donne un si grand privilège. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, quel grand privilège d'être ici, de passer ces moments de communion fraternelle avec vous, de merveilleux chrétiens. Et quand j'ai appris que j'avais reçu le privilège de ces différentes personnes que des églises avaient me permettaient de prêcher chez elles, juste avant la convention, je me suis dit, c'est un merveilleux moment pour exprimer notre reconnaissance pour la manière dont ces différentes organisations ont collaboré par le passé dans mes missions partout dans le monde. Les Assemblées de Dieu, l'Église Foursquare, l'Église du nom de Jésus, l'Église de Dieu et les églises indépendantes partout dans le monde, toutes rassemblées dans l'unité et à la gloire de Dieu. Et Dieu a fait de grandes choses parmi elles, et nous en sommes reconnaissants. Et puis, pour revenir là où nous pouvons exprimer nos pensées et notre communion fraternelle, et comme je le citais hier soir, ici, au Fellowship Tabernacle, où nous avons eu le service, j'avais un vieil ami, frère Bosworth. Beaucoup d'entre vous se souviennent de frère Bosworth, et il avait l'habitude de me dire, il disait, « Frère Branham, savez-vous ce qu'est la communion fraternelle ?» En anglais, « fellowship », j'ai dit, « Je pense que oui, frère Bosworth ». Il a dit, « Ce sont deux personnes dans un même bateau ». En anglais, « fellows » signifie « personne » et « ship » signifie « bateau ». Alors oui, il avait le sens de l'humour, et j'ai toujours aimé ça. Deux personnes dans un même bateau. Alors, toujours, la couverture s'étend un peu pour aider l'autre personne, vous savez, et c'est très bien. Maintenant, j'espère bien que vous prierez pour moi. Et aujourd'hui, j'ai envoyé mon fils tout à l'heure pour voir s'il y avait quelqu'un qui voudrait qu'on prie pour lui. En fait, je ne suis pas venu pour avoir des services de guérison, juste pour vous parler. Tout le monde sait que je ne suis pas un prédicateur, ceux qui m'ont déjà entendu. Mais je n'ai pas d'instruction et je ne peux pas prêcher. Mais je prie généralement pour les malades. Et quand je viens, généralement les gens se rassemblent pour qu'on prie pour eux. Bien sûr, il y a tellement de malades. Mais dimanche, je n'en ai pas du tout parlé parce que j'amènerai les gens d'autres églises à venir à ces églises où je devais être dimanche pour qu'on prie pour eux. Et je me suis dit que ça pourrait blesser certaines des autres églises. Alors j'ai simplement laissé ça de côté. Bon, hier soir, j'ai annoncé que ce soir, nous allions prier pour les malades ici. Et si Dieu le veut, peut-être que demain soir ou le soir suivant, l'un ou l'autre, nous prierons de nouveau pour les malades. Alors j'espère que tout ira bien, que le Seigneur guérira tous ceux qui sont malades ici ce soir. Et je vous le dis, mes précieux amis, j'ai confiance par-dessus tout que les malades qui souffrent du péché seront guéris ce soir. Voyez, si le Seigneur vous guérit de votre maladie, probablement que vous, si vous vivez un certain temps, vous retomberez malade. Voyez, mais c'est la vie éternelle que nous recherchons. C'est vrai, car c'est le vrai remède. Et j'ai confiance que s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas un croyant en Christ, qu'il deviendra un croyant ce soir. Et si vous êtes ici et que vous n'êtes pas né de nouveau ou que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, été rempli du Saint-Esprit, j'ai confiance que ce soir, ce sera celui où cela va arriver. Si vous êtes rétrograde, j'espère que le Seigneur Jésus fera quelque chose de tellement réel ce soir pour vous ici et qu'il réchauffera votre cœur de telle sorte que vous reviendrez simplement à sa communion parce qu'il attend les bras ouverts. Il attend. Il y a quelques années, j'ai prêché une petite prédication, une fois, là-bas à l'Angelus Temple, quand ils célébraient le jubilé de la Pentecôte, le jubilé de 50 ans. Je me souviens que le premier soir, j'ai prêché sur la sainteté à laquelle je crois. Ce n'était pas du tout mon intention. Mais vous savez, j'étais tranchant avec les gens, et à cause du fait que les gens s'étaient éloignés de la Pentecôte originelle, comme quand, au tout début, quand le Saint-Esprit est descendu, ces gens vivaient la vie, ce qu'ils faisaient il y a 50 ans. J'ai dit, nous avons fait beaucoup de chemin. Depuis ce temps-là, nous avons de grandes organisations, de beaux grands bâtiments et des prédicateurs très raffinés. J'ai dit, je me demande si nous avons encore la bénédiction de la Pentecôte que nous avions à l'époque. Voyez, j'ai dit, avant, nos sœurs venaient à l'église. C'était une honte pour l'une d'elles d'avoir les cheveux courts, de porter de la manucure ou quelque chose comme ça. Mais là, ils ont plutôt levé les barrières quelque part. Donc, il y avait un de mes amis, et c'est aussi un frère pentecôtiste, et beaucoup d'entre vous le connaissent peut-être. Il s'appelle William Booth Cliburn. Eh bien, beaucoup d'entre vous le connaissent. Et frère Booth est un de mes amis intimes. Seulement, nous ne sommes pas d'accord sur les doctrines, parce qu'il a une pensée tellement calviniste que sa pensée dépasse la mienne. Donc, je peux penser comme un calviniste tant que cela est dans la Bible, voyez. Et puis, quand cela s'en écarte, cela dépasse ma pensée. Je ne peux plus penser. Donc, je l'ai vu sur l'estrade. Alors, quand nous sommes descendus de l'estrade, il est venu me voir là-bas, et il m'a regardé. Il a dit, honte à vous. Quel message légaliste. Vous saviez qu'il en est autrement. Il m'a carrément démoli, vous savez. Et le lendemain, j'ai prêché sur l'agneau et la colombe. Oh, le Seigneur a vraiment béni ce petit message entrecoupé. Et quand il est sorti, il s'essuyait les yeux, vous savez. Il a dit, c'était bon, mais tellement simple. Tellement simple. J'ai dit, c'était très bien, a-t-il dit, mais tellement simple. Il était tellement... Il peut prêcher en 7 langues, vous savez. Alors mon petit discours du Kentucky était tellement simple pour lui que mon savoir-vivre ne l'impressionnait pas du tout, voyez-vous. Donc, c'est à peu près de cette manière dont je dois parler. Simple. Je crois que l'Évangile est simple. La Bible dit, c'est tellement simple que même un insensé ne pourrait s'égarer. Voyez. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous souvenir d'A, B, C. Vous savez ce que cela signifie? Toujours croire Christ. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est réglé. A, B, C. Et vous avez alors une solide instruction en ce qui me concerne. Donc, maintenant, il y a des gens qui sont debout, et cela me touche. Et là, je ne suis pas du tout venu pour prêcher. Je vais prier pour les malades. Mais pour avoir un peu de contexte, je vais parler des Écritures. Je pense que j'ai prêché un peu trop longtemps l'autre matin chez Frère Fuller. Je l'ai appelé le Life Tabernacle, ou quelque chose comme ça, le Faith Tabernacle. Je pense que je les ai retenus l'autre soir. Avant que j'arrive à l'église, le pasteur ou quelqu'un m'avait fait savoir. Il avait dit, « Dis donc, ces gens aiment aller au lit le soir. » Or, il est très rare que je prêche plus de 6 ou 8 heures. Alors, je ne prêche jamais plus longtemps que ça. Donc, l'autre soir, chez Frère Outland, j'ai pensé qu'il allait presque devoir m'arracher de la chair. Alors je ferais mieux de me modérer un peu ce soir, ici sur l'estrade, et certains d'entre vous qui viennent de si loin. Eh bien, il fait bon être ici. Maintenant, avant d'aborder la parole, parlons à l'auteur. Quelqu'un a dit, il n'y a pas longtemps, j'étais au Fort Wayne Gospel Tabernacle, B.A. Rediger. C'était un grand homme de Dieu qui est mort il y a des années. Et le Seigneur a vraiment béni ce frère. C'était un vaillant homme de foi. J'étais un jeune garçon. J'avais l'habitude de m'asseoir là, avec Paul Rader, et je n'étais qu'un jeune prédicateur. Et alors, la fille de Frère Rediger avait perdu la raison. Elle était maintenant atteinte de folie. Un jour, elle était dans mon hangar à charbon, là-bas, un matin de Pâques. Et on m'a dit, il y a une fille aliénée là-bas, dans l'église. Et je revenais tout juste d'une campagne. Je suis allé là-bas et j'ai découvert que c'était la fille de B. et Rediger. Et ce Rediger, qui était assise là, le cœur a failli me manquer. Et elle se tenait là. Elle peignait ses beaux cheveux longs avec ses doigts, en criant, « Un 5 cents est un 5 cents. Un sou est un sou. Une belle jeune femme. » Lorsque je me suis agenouillé là et j'ai dit, « Seigneur Jésus, sois miséricordieux envers elle. » C'était réglé. Elle est mariée, elle a maintenant 2 ou 3 enfants, elle va très bien. Voyez, et une telle grâce, une telle simplicité. Nous regardons au loin et allons chercher bien au-delà de lui, honnêtement, pour essayer de trouver ce qui est tout près de nous. Comme ça. Simplement, nous croyons. Nous avons la foi. Nous ne doutons pas. Je tenais une réunion là-bas. J'ai oublié qui est le frère pentecôtiste qui est responsable du tabernacle maintenant. Et je tenais une réunion là-bas. Et il y avait ce cantique, « Crois seulement », qui avait été écrit par Paul Rader. Il était un chrétien si merveilleux et un grand messager de son temps. J'étais assis dans le petit bureau, et il chantait, m'indiquant par ce cantique de venir sur l'estrade, ce qu'ils font partout dans le monde. Et j'étais assis là, et je savais que c'était dans ce même bureau que Paul avait eu l'inspiration pour écrire le cantique. Et voici que j'ai entendu ça, « Crois seulement, oh, mon cœur brûlait !» À la fin du service, notre Seigneur Jésus avait fait plusieurs grandes choses pendant la réunion. Je suis allé là-bas, à côté du bâtiment, et j'attendais. Et un homme s'est approché. Il a dit, « Monsieur Branham ?» Et j'ai dit, « Oui, monsieur ?» Il a dit, « J'aime vous entendre prêcher, mais a-t-il dit, « Votre grammaire est vraiment mauvaise. » J'ai dit, « Oui, monsieur, je le sais. » Il a dit, « Vous dites certaines des choses les plus terribles. » J'ai dit, « Oui, monsieur, c'est vrai. » J'ai dit, « Je n'ai pas eu l'occasion de faire des études. » J'ai dit, « J'ai grandi dans une famille de 10 enfants. Mes parents étaient pauvres et j'étais jeune quand j'ai dû commencer à travailler pour subvenir aux besoins de cette famille. Je n'ai même pas terminé mes études primaires. » Il a dit, « Ce n'est pas une excuse maintenant. Vous êtes un homme. » J'ai dit, « Eh bien, je suis tellement occupé par l'œuvre du Seigneur maintenant que je n'en ai pas l'occasion. » Il a dit, « Mais vous pourriez suivre des cours par correspondance. » Il a dit, « Eh bien, par exemple, ce soir, dans l'assemblée, vous avez dit, vous tous qui passez devant cette chaire. » J'ai dit, « Eh bien, je ne savais pas faire autrement. » J'ai dit, « N'est-ce pas ce que c'est ?»« Bien sûr que non. » Il a dit, « Vous devriez dire, « Cher !» J'ai dit, il a dit, « Vous... » J'ai dit, « Eh bien, très bien, c'est quelque chose que j'avais mal prononcé, ou quelque chose comme ça. » Il a dit, « Eh bien, vous ne connaissez vraiment pas votre Bible. » J'ai dit, « Eh bien, c'est peut-être vrai, mais je connais très bien l'auteur. » J'ai dit, « C'est ça. Vous savez, il n'y est pas dit de connaître son livre, mais le connaître lui, c'est la vie. » Voyez, Satan connaît sa parole, mais le connaître lui, l'auteur de la parole. Vous voyez, courbons la tête maintenant, alors que nous lui parlons à notre humble manière. Maintenant, alors que nous avons la tête inclinée et le cœur aussi, y a-t-il une requête spéciale pour laquelle vous aimeriez que nous nous souvenions de vous? Levez la main vers Dieu. Gardez simplement votre requête dans votre cœur en disant, « Seigneur, j'ai besoin du salut. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin de quelque chose. » Dieu comprendra. Notre Père Céleste, alors que nous nous approchons de ta sainte présence ce soir, au nom du Seigneur Jésus, nous venons en son nom, parce qu'il a dit que si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, je le ferai. Maintenant, nous savons que nous ne pouvons pas venir en notre propre nom. Nous ne pouvons pas venir au nom de notre Église, au nom de notre pasteur ou au nom de notre organisation et nous attendre à être entendus. Mais nous avons l'assurance que si nous venons au nom du Seigneur Jésus, il nous a promis que nous serions entendus. Et je prie ce soir, Père Céleste, alors que nous nous sommes rassemblés ici, dans ce petit tabernacle qui était consacré à ton service, dont ton serviteur, notre frère O'Donnell, est le pasteur en ce moment, qui est le berger des brebis qui séjournent dans cette région du pays. Je prie que tu déverses tes bénédictions sur ce pasteur et sur sa famille, sur l'Église et sur toutes les brebis qui paissent ici dans le pâturage. Je prie pour chaque Église qui est représentée ici, pour tous les gens et pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Je prie que ce soir, ils deviennent chrétiens. Je prie pour les hommes d'affaires qui sont ici, frère Rose, frère Williams et beaucoup d'autres, pour la convention qui aura bientôt lieu là-bas. Que cette petite stimulation de ces quelques derniers jours, à Phoenix, à Tempe, à Sunny Slopes, partout dans la région ici, amène beaucoup de chrétiens à retrouver une ardeur nouvelle, beaucoup de rétrogrades à revenir à Dieu, beaucoup de pécheurs à venir à Christ, beaucoup de malades à être guéris. Accorde-le, Père. Parle à travers nous, à travers la parole ce soir, la vérité. Ta parole est la vérité. Guéris tous les malades et les affligés, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Ces mains qui se sont levées ont un besoin, Seigneur. Et je te prie de pourvoir à tout cela ce soir, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, beaucoup d'entre vous aiment lire les Écritures avec ceux qui lisent. J'aimerais lire à deux endroits ce soir. L'un des passages se trouve dans Marc, chapitre 16, et nous allons commencer au verset 14. Et l'autre se trouve dans Jean, où je pense que c'est l'endroit que j'ai noté. Je vais vérifier d'abord. Oui, c'est dans Jean 14, 12, que se trouve le deuxième passage de l'Écriture. Et maintenant, dans Marc chapitre 11, à partir du verset 14, et Jean 14, 12. Maintenant, nous voulons écouter attentivement la lecture, parce que c'est la parole de Dieu que nous voulons entendre. Premièrement, Marc 16. Puis il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha l'incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Jean 14, 12. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. J'aimerais prendre comme sujet, si le Seigneur le veut, la confirmation de la commission comme sujet est juste pour parler. J'ai noté quelques passages de l'Écriture et quelques notes qui pourraient nous aider. Maintenant, la confirmation de la commission. Bon, je pense que tout devrait être confirmé. Si vous construisiez une maison, il faudrait qu'elle soit construite selon les spécifications. Sinon, on ne confirmerait pas que la maison est construite selon les plans. Alors, il vous faudrait la démolir et la reconstruire. Et je pense aussi que si vous rouliez sur la route et, ou à votre lieu de travail, si quelqu'un s'avançait vers vous et disait « Je suis un officier de police fédérale des États-Unis. » Je vous mets maintenant en état d'arrestation au nom de ma fonction. Maintenant, vous avez le droit de dire à cet homme, si vous l'avez regardé, il porte un uniforme et un insigne y est épinglé. Mais ça ne fait quand même pas de lui un officier de police fédérale des États-Unis. N'importe quel imposteur pourrait porter ça. On peut acheter un insigne ici dans un magasin d'articles à petit prix. On peut aller à une vente de bric-à-brac pour acheter un uniforme ou quoi que ce soit d'autre. Ça ne fait pas de lui un officier de police fédérale des États-Unis. Pour s'identifier, il doit avoir ses papiers où le sceau est apposé, pour confirmer sa déclaration selon laquelle il est un officier de police fédérale des États-Unis, ou il n'est rien tant qu'il n'est pas confirmé comme tel. Il a confirmé sa commission et il le fait par une attestation scellée, une déclaration pour montrer que cet homme a été assermenté. Et il a été, sa commission a été scellée du sceau des États-Unis, et il se trouve au-dessus de son nom. Et cela fait alors de lui, qu'il porte un insigne ou qu'il porte un uniforme, tant qu'il a ce papier avec lui, il est l'officier de police fédérale, et c'est sa commission. Juste un insigne et un uniforme, ça ne fera pas l'affaire. Nous voyons cela très souvent dans l'armée. J'ai entendu mes frères et beaucoup de ceux qui étaient outre-mer, que bien des fois, les Japonais et les Allemands et les autres pays étrangers qui étaient contre nous pendant la guerre, s'ils pouvaient ramasser un soldat mort, puis choisir un de leurs soldats dont la taille correspondait à celle de l'uniforme. Eh bien, il pourrait imiter un soldat américain. Et il fallait qu'il soit correctement identifié, sinon on ne croirait jamais à son uniforme, ou peut-être la plaque militaire qu'il avait au cou. Il devait être identifié comme étant un soldat américain, parce qu'il pourrait très bien être un espion. N'importe quel espion minable peut porter un uniforme des États-Unis. Et nous voyons cela dans tous les milieux. C'est ce que nous constatons aujourd'hui, peut-être dans la rue. Nous entendons bien des gens dire qu'ils sont américains. Et ici, il y a quelque temps, je sortais de la base militaire qui se trouvait là-bas autrefois, à Jeffersonville. Je me promenais un matin, je patrouillais. Et il y avait un homme bien habillé qui marchait dans la rue, un gros cigare au bec, un employé du gouvernement. Et il m'a regardé, tôt le matin, il portait une paire de lunettes de soleil. J'ai dit, « Bonjour, monsieur !» Il m'a regardé et il a dit, « Il s'est mis à marcher. Or, je me suis dit, je ne devrais rien dire, mais dans mon cœur, il n'était pas vraiment un Américain, parce que les principes américains ne sont pas fondés sur des choses comme ça. C'est vrai, la communion fraternelle, la tolérance, la bienveillance. Bon, voyez-vous, tous ceux qui vivent en Amérique ne sont pas des Américains. Il y a des espions, des communistes et tout le reste. Et le seul moyen de savoir ce qu'ils sont vraiment, qu'ils sont dans le vrai ou pas, c'est, en fait, par ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, si leur cœur est en Amérique ou simplement leur portefeuille, voyez. Ça dépend de ce que c'est. N'importe quel imposteur peut avoir cette soi-disant accréditation sans pour autant être un vrai, un authentique citoyen. C'est pourquoi je crois que tous ceux qui se présentent à nous, qui se disent chrétiens, ambassadeurs envoyés du ciel, ils devraient avoir une confirmation de leur commission. Je crois qu'il devrait y avoir une confirmation de leur commission. Maintenant, nous sommes conscients que Jésus a dit ici, dans Marc chapitre 16, que tous ceux qu'il a envoyés avec une commission auraient avec eux la confirmation. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, il n'a pas dit, il peut être qu'ils les accompagneront, ou c'est possible qu'ils les accompagnent. Il a dit, allez par tout le monde. Là, quelqu'un veut retrancher cette commission d'il y a 2000 ans. Mais il a dit, par tout le monde, à toute la création. Voici les signes qui accompagneront par tout le monde et à toute la création. Voyez, et c'était là les signes qui devaient accompagner pour approuver l'identification. La Bible déclare, l'Évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, mais par la puissance, les manifestations du Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui prend la parole de Dieu et qui la rend manifeste. Voyez, autrement dit, le seul moyen pour que les signes de Marc 16 puissent accompagner le croyant, c'est que le Saint-Esprit lui-même prenne la parole de Dieu et la démontre aux gens. C'est ça. Or, c'est la foi qui rend cette parole vivante. Voyez, la parole est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Voyez, c'est-à-dire rester avec Christ, dans la parole. N'allez ni à droite, ni à gauche. Tenez-vous-en strictement à cela. Voyez, ce n'est plus votre parole à ce moment-là. C'est sa parole. Et sa parole a derrière elle la puissance et l'autorité. Bon, si le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, où la puissance de la parole de Dieu vient avec la parole de Dieu, cela fera que la parole de Dieu se manifeste. Allez par tout le monde et démontrez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Comme c'est un cadre magnifique. Si nous approfondissions simplement cela maintenant et écoutions, ça, c'était l'accréditation que devait avoir tout homme qui allait prêcher l'Évangile. Et nul n'a le droit de prêcher l'Évangile sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Jésus n'a pas permis à Pierre, Jacques, Jean, aucun des autres, de prêcher l'Évangile jusqu'à ce qu'ils aient attendu dans la ville de Jérusalem que le Saint-Esprit les ait remplis. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met la parole de Dieu en action. Voyez? Or, cette même parole est tout aussi vivante ce soir qu'elle l'était à l'heure où elle était prononcée. Voyez? Là, tout ce dont nous avons besoin, c'est du Saint-Esprit derrière la parole, qui la met en action et qui démontre la puissance qu'elle a promise. Chaque bénédiction que Dieu a promise, tout ce qu'il a dit peut prendre vie si le Saint-Esprit est derrière la parole, parce que c'est la chose qui vivifie la parole et qui lui donne la vie. Voyez? Et là, nous savons que cela est vrai. Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront tous ceux que j'enverrai. » Les autres refusent, c'est tout, certainement. N'importe quel incroyant, n'importe quelle critique de la parole peut venir avec une identification d'une dénomination, d'une organisation faite de main d'homme ou de quelque chose du genre et dire, « Je suis presbytérien, luthérien, baptiste, quoi que cela soit. » Il pourrait facilement s'identifier dans une assemblée de cette même église dénominationnelle à cause de son accréditation. Mais son accréditation ne vient que d'une organisation qui était formée par une théorie et non par la parole de Dieu. Mais Dieu, s'il est envoyé par Dieu, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez, Jésus l'a dit, voyez. Voyez, c'est ou bien soit vous prenez ce qu'une organisation a dit, ce qu'une théorie faite de main d'homme a dit. Ils vont prêcher la doctrine de ces théories, et ça, c'est leur accréditation aux yeux du conseil des diacres, ou quoi que ce soit d'autre, qui prouve qu'ils sont en bonne communion avec cette organisation. Je n'ai rien contre ça, comprenez-moi bien, mais je ne fais que défendre ce que Jésus a dit. Voyez, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et Jésus a dit, dans Jean 14, 12, « en vérité, je vous le dis. » C'est-à-dire, absolument, absolument, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Comment un homme peut-il croire qu'il est envoyé de Dieu et ensuite faire demi-tour et nier la commission même que Dieu a dit serait? Que serait l'identification de chaque personne qu'il a envoyée? Comment un homme peut-il dire, le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas? Comment un homme peut-il dire, la guérison des malades, ça n'existe pas? Comment un homme peut-il dire, parler en langue, chasser les démons, ça n'existe pas? Alors que c'était là l'accréditation même que Jésus a donnée à chaque croyant qui ferait, qu'il a envoyé. Ça, c'est l'autorité. Maintenant, vous pouvez aller à l'école et obtenir un doctorat en philosophie, un doctorat en droit et tout ce que vous voulez faire d'autre. Et c'est très bien. Ce sont là vos identifications à cette organisation. Et ces identifications sont très bien. Je n'ai rien contre elles. J'aimerais les avoir. Mais l'identification que Jésus, quand il envoie un homme, c'est « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Voyez, ce sont les identifications qu'il a été envoyé par Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, comme je l'ai dit, n'importe quel imposteur peut prendre un uniforme ou un insigne. Mais ce n'est pas vraiment une accréditation. C'est l'accréditation qui compte, pas l'uniforme ou l'insigne. Et il y a beaucoup de gens, et c'est dommage que je doive dire ceci, mais c'est la vérité. Nous devons être honnêtes. Il y a trop de nos pentecôtistes qui ne portent que l'insigne et l'uniforme. Vous voyez, parce qu'ils mènent une vie tellement différente de ce que devrait être réellement celle d'un pentecôtiste. Si bien que ça ne vaut rien, c'est tout. Et ça ne fait que jeter l'opprobre sur la cause. C'est vrai, ça rend les gens méfiants. Mais Jésus a donné la confirmation que ce serait bien, parce que voici les signes qui accompagneront les croyants. C'est une chose. Le Saint-Esprit a parcouru du regard le cours du temps et a vu que les hommes pervertiraient sa parole et seraient la cause de ceci, cela et autre chose. Alors il a rendu les choses tellement claires et concrètes qu'il n'y a aucun moyen de contourner cela. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, nous savons que cela est vrai. Un incroyant peut avoir cette accréditation dénominationnelle, mais ce n'est pas ça qui fait de lui un homme envoyé de Dieu. Il se promène ici avec toutes sortes de livres sous les bras. Il parcourt le pays. Et ceci, Jéhovah est ceci, et telle chose, et tout ceci, et autre chose. Mais ce n'est pas vrai pour autant. Non, monsieur. Jésus a dit, éprouvez-les par la parole. C'est vrai, la parole. Voici les signes qui accompagneront. Croyez-vous à la puissance de Dieu? Oh, notre Église enseigne que... Notre Église, ça n'a rien à voir avec cela. Ce qui compte, c'est ce que dit la parole de Dieu. Voyez, oui, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. La parole vivante, prononcée par un Dieu vivant, doit être dans un être vivant. Et comment un homme ou une femme qui prétend avoir le baptême du Saint-Esprit peut-il nier ce que Dieu a dit dans sa parole? En effet, le Saint-Esprit même qui a écrit la parole, c'est le Saint-Esprit même qui parle à travers la personne. C'est vrai, forcément. Elle ne peut pas le faire. Oui, monsieur. Bon, mais là, un homme pourrait venir et dire, j'ai une carte d'association. Je fais partie de cette église-ci ou de cette église-là. Ça ne veut quand même pas dire que ce soit juste. Il a peut-être un doctorat en philosophie, un doctorat en droit, et quoi encore, d'une grande école. C'est très bien. Je n'ai rien contre ça. C'est quand même peut-être très bien. Je n'ai rien contre ça. Mais si Dieu l'a envoyé, et s'il nie cette commission ici, s'il a cela plus ceci, c'est merveilleux. Mais s'il a cela sans ceci, alors ce n'est pas bon. Voyez, c'est vrai. Il n'y a pas de mal à ce qu'un homme porte un uniforme et un insigne avec l'accréditation. Très bien. Mais il pourrait porter l'uniforme et l'insigne sans avoir l'accréditation. C'est vrai. Donc, c'est une confirmation d'une commission qui doit compter. Il faut, sans aucun doute. C'est un croyant qui pourrait se présenter là et dire, « Eh bien, je ne crois pas que le baptême du Saint-Esprit existe. Nos écoles ont enseigné que ces jours-là sont passés. Nous n'avons plus besoin d'avoir ça. » Et il y en a tellement qui croient ça. Il y en a tellement qui croient sincèrement cela. De braves hommes, c'est parce qu'ils écoutent l'école plutôt que la parole de Dieu. C'est tout à fait vrai. Ici, il y a quelque temps, à un certain endroit, il y avait une femme. Elle avait un fils et il avait reçu un appel de Dieu dans sa vie. Il semblait en avoir un. Et la pauvre vieille mère voulait l'envoyer étudier pour faire tout ce qu'elle pouvait pour qu'il reçoive une formation. Et c'est une bonne chose à faire. Mais elle l'a envoyé à la mauvaise école. Elle l'a envoyé là où ils se sont mis à enseigner des choses contraires à la parole de Dieu. Et il est allé là-bas. Elle a fait des lessives pour l'envoyer à l'école et tout. Et beaucoup de temps s'est écoulé. Et finalement, il n'est pas revenu à la maison pendant un certain temps. La vieille mère est tombée malade. Elle est tombée vraiment, vraiment malade. Et son état s'est tellement dégradé que le médecin a dit qu'elle n'allait pas vivre, qu'elle allait forcément mourir. Alors, elle a demandé à l'un des voisins d'envoyer un télégramme à son fils pour qu'il rentre immédiatement à la maison, parce qu'il s'attendait à ce qu'elle meure. Alors le voisin a envoyé le télégramme. Et donc, le jeune homme s'est préparé à venir. Et au bout d'un moment, un autre télégramme est arrivé qui disait, « Laisse faire, elle va bien. » Ainsi donc, plusieurs mois plus tard, le garçon est rentré à la maison pour rendre visite à sa mère. Et il lui a dit, il se réjouissait, et lui disait qu'il avait obtenu sa licence en lettres. et tout ce qu'il avait fait, et combien ils sont sortis bien à l'école. Et il a dit, « Au fait, maman, a-t-il dit, j'ai oublié de te demander. » Il a dit, « Tu m'as envoyé un télégramme il y a environ 6 mois pour que je rentre à la maison. » Il a dit, « J'étais tellement bouleversé. » Et il a dit, « Ça m'a tellement inquiété. » Et il a dit, « Je me suis préparé à venir. » Ensuite, un autre télégramme est arrivé, disant que tu allais bien, tu t'étais rétabli, et j'en étais si heureux. « Maman, j'aimerais te dire, ou « Maman, j'aimerais que tu me dises ce qui s'est passé. Quel genre de médicament le médecin t'a-t-il donné? Et quel médecin s'est occupé de toi ?» Il a dit, « J'aimerais aller le voir et le féliciter pour son bon travail. » Elle a dit, « Très bien, fiston. » Elle a dit, « Docteur Jésus est celui qui a fait cela. » Il a dit, « Comment ?» Elle a dit, « Docteur Jésus. » Elle a dit, « Docteur Antel, mon médecin, est venu ici et ma fièvre était si forte que j'étais hors de moi. » Et elle a dit, « Ils ont dit que mon état empirait et ensuite que j'allais mourir. » Et elle a dit, « Tu sais où se trouve cette petite mission là-bas, au coin de la rue ?»« Oui. » Elle a dit, « Ces gens avaient une réunion de prière là-bas un soir. Ils ont dit que le Saint-Esprit leur avait dit de venir prier pour moi. » Elle a dit, « À peine ont-ils prié pour moi que toute la fièvre est partie. » Elle a dit, « Oh, fiston !» Elle a dit, « Alléluia !» Elle a dit, « Je suis guéri !» Oh, a-t-il dit, « Maman, maman, quelle audace !» Voyons, tu ne devrais pas côtoyer de telles personnes. Il a dit, voyons, tu ne devrais pas laisser ces gens-là venir ici. Elle a dit, oh, pourquoi, fiston? Elle a dit, eh bien, gloire à Dieu. Il a dit, maman, ne dis pas ces choses. Il a dit, eh bien, tu me scandalises. Voyez, il a dit, eh bien, tu ne devrais pas dire ces choses. Voyons, a-t-il dit, ces gens n'ont pas d'instruction, ils ne connaissent rien de la Bible. Oh, a-t-elle dit, je te demande bien pardon, fiston. Elle a dit, ils sont venus et ont lu pour moi dans la Bible, où il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains malades, les malades seront guéris. Elle a dit, attends, je l'ai lu bien des fois, je l'ai noté dans ma Bible. Je vais te montrer. Oh, attends un instant, maman. Il a dit, ça, c'est Marc 16. Oui, c'est là que ça se trouve, mon chéri, a-t-elle dit. Marc 16. Il a dit, oh, maman, a-t-il dit, tu vois, ces pauvres gens, ils ne savent pas ce qu'il en est. Il a dit, nous avons appris à l'école que Marc 16, à partir du chapitre 9, n'est pas inspiré. Vois-tu, ce n'est pas vraiment inspiré. Cela a simplement été ajouté. Et la petite maman a dit, « Gloire à Dieu! Alléluia !» Elle, le garçon a dit, « Maman, qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle a dit, « Je réfléchissais à ceci. » Il a dit, « Tu réfléchissais à quoi, maman ?» Elle a dit, « Si Dieu a pu me faire ça avec la parole qui n'est pas inspirée, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ce qui est vraiment inspiré ?» Voilà, c'est vrai. Voyez ? Voyez, c'est ça. Oh là là ! Qu'est-ce qu'il y avait ? Cette petite mission au coin de la rue avait une accréditation. Peut-être pas un doctorat en philosophie ou un doctorat en droit. Mais ils avaient l'accréditation de Dieu avec ces signes qui accompagnent ceux qui croient. Jésus a dit que nous ferions cela. Ils avaient la confirmation de Dieu. Ils avaient sa commission d'aller imposer les mains aux malades, et ils l'ont fait exactement comme il avait dit de le faire. Et Dieu a confirmé la parole par les signes qui les accompagnaient. C'est une confirmation qu'ils étaient envoyés de Dieu. Oui, monsieur, c'est vrai. Très bien. Alors, c'est une bonne leçon. En effet, le jeune homme était parti étudier, et il est vrai qu'il avait son doctorat en philosophie. Mais eux, ils avaient la confirmation de la parole. Ils avaient la confirmation d'un diplôme d'une certaine université. Mais eux, ils avaient la confirmation de la parole de Dieu qui venait du ciel avec le Saint-Esprit pour appuyer ce dont ils parlaient. Oui, monsieur. Et Dieu leur a donné les signes. Oui, monsieur. Oh, combien je remercie Dieu pour ça. Le peuple de Dieu a toujours cela. Maintenant, sans aucun doute, l'incroyant devra avoir un peu de la parole de Dieu pour la déformer, pour que cela cadre avec le credo, afin qu'il soit plus trompeur. Maintenant, vous savez, le plus grand mensonge qui ait jamais été raconté contient une grande partie de vérité. C'est vrai. Souvenez-vous, Chuck, le premier mensonge qui était raconté avec 95% de vérité. Quand Satan a dit à Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a bien dit toutes ces choses. Il a admis, c'est vrai. Il a admis, c'est vrai. Tout ce que Dieu a dit. Mais a-t-il dit, vous ne mourrez point certainement. Voilà, quelqu'un pourrait dire, ils étaient au tabernacle, ici, tel soir. Oui, les gens se sont tous rassemblés. Oui, ils ont chanté des cantiques. Oui, et le prédicateur a prêché. Oui, c'est vrai. Et puis, savez-vous quoi? Ils ont fait circuler la bouteille et ils étaient tous ivres. Faux, voyez? C'est l'esprit qui est descendu et ils étaient tous ivres, voyez? C'est toute une différence, voyez-vous? Ils n'ont pas fait circuler une bouteille, mais c'est une bénédiction spirituelle de Dieu qui est descendue sur les gens. Ils ont bel et bien titubé, ils sont bel et bien tombés. Et ils se sont bel et bien comportés comme ça. Mais ce n'était pas une bouteille qui a produit cela. C'était le Saint-Esprit qui confirmait sa parole par les signes qui les accompagnaient. Voyez, voyez, tout cela semble être vrai, sauf la bouteille. Voyez, maintenant je dirais, étiez-vous là-bas? Oui. Est-ce que les gens étaient là? Oui. Ont-ils titubé? Oui. Oui. Tout ça? Oui. C'est très bien. Sauf cette chose-là. Donc, c'est comme ça que l'incroyant, la personne qui n'est pas identifiée à Dieu, elle dira, « Oh, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu est le Père de Jésus-Christ. Je crois toutes ces autres choses. » Voyez? Mais quand il s'agit de cette autre partie, « Oh, ça, c'est pour une autre époque. » Voyez? Voilà le mensonge. C'est vrai. Cette personne essaie de déformer un peu la vraie parole pour faire en sorte que cela trompe les gens. Mais quoi? Jésus a été clair. Il a dit, voici les signes qui confirmeront le message que j'ai envoyé. Oui, monsieur, j'ai déjà été prédicateur baptiste et j'aime encore les baptistes, mais j'ai trouvé cette autre chose. Voyez? Or, ce n'est pas tout à fait l'Église pentecôtiste. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, que ça ne vaut rien, mais c'est ce que nous avons de mieux. Alors, tenons-nous-en à ça. C'est tout. Ils croient. Certains d'entre eux n'ont peut-être pas assez de foi. Je suis là avec eux, pas assez de foi pour amener toutes les paroles à s'accomplir. Mais je ne ferai jamais obstacle à quelqu'un qui a assez de foi pour les amener à s'accomplir. Je ne me cacherai jamais derrière l'incrédulité pour dire que ça ne peut pas s'accomplir. Si l'homme peut prendre la parole de Dieu et la confirmer par la puissance de Dieu, je dis, gloire à Dieu, Seigneur, fais-moi monter et me tenir par la foi sur le haut plateau. Oui, je m'en tiendrai certainement à ça. Ils en font juste un peu pour que cela cadre avec leur credo. Mais le serviteur de Dieu a son signe, exactement. Dans l'Ancien Testament, il y avait un homme, à l'époque où certains ne savaient pas signer leur nom. Alors, ils avaient un sceau, et c'était un signe. Ils apposaient ce sceau comme ça. C'était achevé. Un sceau, c'est une œuvre achevée. Éphésiens 4:30 dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » C'est un scellement, une œuvre achevée, que Dieu vous a vu, qu'il a reconnu la foi que vous avez professé avoir en lui, qu'il a répandu le Saint-Esprit et vous a scellé jusqu'au jour de votre rédemption. C'est un signe que Dieu vous a donné le Saint-Esprit. C'est vrai, et il a confirmé la foi qui se trouvait en vous, et l'on donne la confirmation en vous donnant le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Exactement. S'il nie, cet homme qui se promène partout en disant, « Maintenant, n'écoutez pas ces gens-là. Vous étiez dans un tabernacle l'autre soir? Oui. Ah oui. Eh bien, nous faisons partie de tel et tel. Ça, ce n'est rien d'autre que de la racaille. Saviez-vous que Paul a dit à Agrippa, « Selon la voie qu'on appelle hérésie, c'est ainsi que je sers le Dieu de nos pères. Savez-vous ce qu'est de l'hérésie? Oui, c'est vrai. N'ont-ils pas dit à Jésus, « Maintenant, nous savons que tu es fou. » Ou, ça veut dire de la folie, voyez? Une voie qui semble de la folie, parce que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous n'êtes plus du monde, mais vous avez été mis à l'écart du monde. Voyez? C'est pourquoi votre pensée est spirituelle, et vous pensez aux choses d'en haut, et non aux choses qui se passent ici sur la terre. Vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Alors, si cette personne nie que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, maintenant, regardez bien, vous les entendrez dire, « Oh, il est le même. Est-il le même? Est-il le même? » Eh bien, disent-ils, il est le même, d'une certaine manière. De quelle manière? Voyez? De quelle manière? Eh bien, je crois qu'il sauve encore. Voyez? Qu'en est-il de la guérison? Oh non, il ne fait pas ça. Or, quand il était ici sur terre, ils ont dit, il peut guérir, mais il ne peut pas sauver. Maintenant, ils disent, il peut sauver, mais il ne peut pas guérir. Vous voyez? C'est simplement le diable qui dit une chose et ensuite il dit l'inverse. Mais s'il est vraiment Jésus-Christ, le Oint, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le même guérisseur, le même. Ce n'est pas vous qui faites des miracles. Non, ils veulent dire que je vous vois faire ceci. Or, Dieu ne m'a jamais dit de le faire. Il l'a déjà fait. La seule chose que je dois faire, c'est de prendre sa parole et de m'y attacher. Et il l'accomplira. C'est vrai, c'est exact. Ce n'est pas vous. C'est le Dieu qui est en vous. Comme Jésus l'a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait l'œuvre. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. Il guettait d'abord pour voir une vision de ce que le Père lui disait. Jean, je crois, 5:19. Vous lirez ça, 5:19. Oui, si vous le lisez, il a dit, « Ce que le Père me montre, je le fais aussi. » Alors nous voyons donc que s'il dit que Jésus-Christ n'est pas exactement le même, il n'y a qu'une chose qu'il ne peut pas être, ou il peut être différent, c'est un corps physique. Voyez, maintenant, dans le corps physique, Dieu l'a fait sortir de la tombe le troisième jour, et ce corps est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts, sur son trône. Jésus a vaincu, il est monté sur le trône de Dieu. Nous qui vainquons, nous nous assierons avec lui sur son trône, parce que son trône, c'est le trône de David, où il régnera ici sur terre. Et maintenant, à la droite de Dieu, à la droite de sa puissance et de sa majesté, Jésus règne. Et là, donc, il est le souverain sacrificateur qui intercède sur la base de notre confession. Quand nous acceptons sa parole, que nous la croyons dans notre cœur, que nous la recevons dans notre cœur, et que nous ne nous retirons pas, mais que nous croyons parfaitement que la chose arrivera. La véritable postérité d'Abraham s'attachera fermement à cette parole. Peu importe le temps qu'il faudra, il l'accomplira. Il n'y a pas la moindre hésitation nulle part. Il l'accomplira. C'est vrai. Maintenant, un imposteur dira, « Non, ça, ce n'est pas vrai. » Alors, tant qu'ils nient cette commission, cela montre qu'ils ne peuvent pas montrer que leur commission est scellée. Ils ne peuvent pas vous le montrer parce qu'il nie. Si, et comme un policier, je dirais, eh bien, voici, je suis un officier de police fédérale des États-Unis. Je sais que je suis un officier de police fédérale. Et voici une loi qui dit qu'un officier de police fédérale doit avoir cette accréditation scellée du sceau des États-Unis. Vous dites, eh bien ça, c'était pour une époque passée. Nous n'avons pas besoin d'avoir ça aujourd'hui. C'est un imposteur. C'est aussi simple que ça. Il n'est pas authentique. Il n'a pas reçu de commission. Il n'est pas envoyé. Et toute personne qui dit que Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement, toute personne qui nie que ces signes accompagneront ceux qui auront cru, essaie de s'en tirer avec une sorte de papier d'ordination, sans un sceau confirmant la commission. C'est tout à fait vrai, là. Certainement, c'est la vérité. Il ne peut pas être envoyé de Dieu parce qu'il nie le sceau même, qui la confirmation même de la commission qu'il est censé avoir. Si un policier disait, vous n'avez pas besoin d'avoir ce sceau, vous l'avez vous-même. Voilà, c'est là, dans le livre qui dit que vous devez avoir ce sceau. Là, c'est dans les lois des États-Unis. Il est dit qu'un officier de police fédérale doit avoir ce sceau. Et s'il n'a pas ce sceau, il n'est absolument pas un officier de police fédérale. Ne le recevez pas, parce qu'il n'est pas un officier de police fédérale. Car la loi dans le livre dit qu'il doit avoir ce sceau. Jésus a dit, voici les signes qui les accompagneront. Qui les accompagneront? Pas, ils devraient, peut-être, certains d'autres oui. Il est dit, ils accompagneront ceux qui auront cru. C'est la confirmation de la commission qu'ils avaient été envoyés. Amen. J'aime ça. Ça me fait du bien de le savoir. Oui, monsieur. Donc, je sais que c'est la commission qui est entrée dans mon cœur, le sceau du Saint-Esprit. C'est vrai. Je sais que tout croyant qui est réellement croyant, il voit un homme qui nie cette puissance. La Bible dit, dans les derniers jours, ils auraient l'apparence de la piété et renieraient ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ne reçois pas cela. Pas du tout. C'est vrai. Ils auront de grandes églises et de belles dénominations, une grande splendeur, une grande beauté, et ainsi de suite, comme ça. Regardez, ici, l'autre soir, ici à Phoenix, il y avait un groupe de jeunes filles et de garçons là-bas qui participaient à ce nouveau boogie-woogie, ou le nom que vous donnez à ce genre de choses là-bas. Et ils s'étaient tellement emballés dans l'esprit de cette chose-là qu'ils étaient sortis dans la rue. Les policiers ont dû les arrêter. Ils étaient tellement influencés par la puissance du diable. Oui. Et ça, c'est populaire. Mais qu'un homme danse une fois par l'Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit, c'est vrai. C'est ça. Les signes de Dieu accompagneront ceux qui auront cru. Oui, il ne peut pas dire qu'il est envoyé de Dieu et ensuite nier sa commission. Considérons quelques-uns de ceux que Dieu a envoyés pour voir s'il a toujours identifié ses croyants. Maintenant, regardez. Prenons Moïse. Moïse a eu un appel dans sa vie, c'est vrai, mais il n'a jamais été envoyé. Il pensait qu'il avait été envoyé, et regardez quelle erreur il a commise. Mais au buisson ardent, quand Dieu l'a envoyé, quand il s'est trouvé là, dans le séminaire de Pharaon, il en est sorti avec son accréditation. Ça n'allait pas marcher. Dieu n'en reconnaîtrait pas la validité. Regardez, il est allé là-bas, il a tué un homme sans avoir reçu le mandat de le faire. Il a dû fuir hors d'Égypte. Et il est allé là-bas et a noyé toute l'armée égyptienne avec la commission de le faire. Et personne n'a rien dit. Voilà la différence. Il a tué un homme et a dû fuir. Oh, comme il était mal en point, parce qu'il l'avait fait sans commission. Mais il est allé là-bas avec une commission et il a noyé toute l'armée. Et Dieu a reçu la gloire pour lui-même. Voyez, comme Dieu fait que les gens agissent de façon ridicule. Ce vieil homme, maintenant plein de dignité, est sorti de là avec toutes sortes de diplômes universitaires. Mais, il ne voulait pas considérer ces choses-là à 80 ans. Et le lendemain matin, le voici qui se dirige vers l'Égypte avec sa femme assise sur un mulet. Elle tient son petit sur la hanche. Il marche, sa grosse barbe qui flotte au vent, comme ça, et un bâton tordu à la main. Où vas-tu, Moïse ? Je vais en Égypte pour prendre le contrôle. Une invasion par un seul homme. Pourquoi ? Ce qu'il y a, c'est qu'il l'a fait. C'est vrai, comme un seul homme qui s'en va pour prendre le contrôle de toute la Russie. Qu'est-ce que c'était ? Il s'enfuit quand il était officier de haut rang, l'officier le plus haut placé après Pharaon en Égypte. Il s'est enfui de l'Égypte parce qu'il n'avait pas la commission de délivrer les enfants d'Israël. Mais ensuite, il retourne, un seul homme contre toute la chose, avec la commission. Et il a réussi. Pourquoi ? Il avait une commission et il en avait la confirmation. Il pouvait prouver que Dieu l'avait envoyé. Amen. Moïse, avec quoi vas-tu le faire? Ce vieux bâton tordu que j'ai à la main, tu vas faire quoi? Voici ma commission. Quoi? Dieu m'a donné deux signes à opérer devant eux. C'est ça. Il m'a dit d'aller faire ceci. Il a dit, voici les signes qui accompagneront si je vais là-bas. Jette-le par terre devant Pharaon et tu verras ce qui va arriver. Il se transformera en serpent. Ensuite, dis, ainsi dit le Seigneur. Pharaon, laisse aller mon peuple. Moïse est allé là-bas et l'a jeté par terre. Les magiciens sont arrivés. Ils ont fait la même chose. Alors Dieu a confirmé sa commission. Son serpent a dévoré les autres. Vous êtes-vous déjà demandé où sont allés ces serpents? Où? Qu'est-ce qui est arrivé à ces verges? Elles étaient toutes dans une seule verge. Voyez, il les a dévorées, le serpent de Moïse. Car qu'est-ce que c'était? Une confirmation. Amen. Alléluia. Il avait reçu la confirmation de sa commission. Il l'a exécutée. Il a fait sortir les enfants. Et la mer Rouge s'est retrouvée en travers de son chemin. Et elle a cédé le passage. Pourquoi? Il avait une commission et une confirmation de cela. Dieu était avec lui. Et il a opéré des signes et des prodiges. Mais là, si un homme reçoit une commission du Dieu surnaturel, la puissance surnaturelle de Dieu accompagnera cette commission surnaturelle. Ce n'est pas ce que vous apprenez dans un doctorat en philosophie et dans un doctorat en droit est en algèbre et toutes ces choses. Ça, ça confirme votre bonne grammaire et votre bonne élocution à la chair. Quand vous dites « Amen » comme un veau, mais je vais vous dire quelque chose, mais quand vous avez la confirmation de la commission de Dieu qui vous a été donnée par le Saint-Esprit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pardonnez-moi cette expression, la confirmation. Dieu a confirmé parce qu'il était le Dieu surnaturel. Il a donné une puissance surnaturelle pour une délivrance surnaturelle. Je le crois. Aujourd'hui, Dieu ne délivrera pas son peuple par l'instruction. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne les délivrera pas par la théologie. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne les délivrera pas par la science. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne les délivrera pas par une dénomination. Il n'a jamais promis de le faire. Mais il les délivrera par la puissance surnaturelle, en changeant leur vie et en les façonnant pour devenir des enfants de Dieu. Amen. Moïse avait une commission. Il avait des signes qui confirmaient sa commission. Et Jésus, de la même manière, a déclaré « Voici les signes ». Moïse a dit, « Qu'est-ce que je peux leur dire? Comment leur dirais-je que c'est le Dieu de leur père qui a envoyé ?» Il a dit, « Qu'est-ce que tu as dans la main ?» Il a répondu, « Un bâton ». Il a dit, « Jette-le par terre, mets ta main dans ton sein, sors-la, prêche-leur la guérison divine. » C'est une confirmation, certainement. Je vais te donner deux signes. Or, ce même Dieu ne peut pas changer. Quand il a envoyé son Église pour délivrer les gens de cet esclavage infernal de l'Égypte, dans lequel toutes ces choses ont entraîné les gens aujourd'hui, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. N'ayez pas peur d'appliquer la parole là, parce que c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Ne laissez pas le diable vous en dissuader par ses explications, parce que ce n'est pas vrai. Il tient sa parole. Maintenant, je crois cela de tout mon être. Élie a été envoyé là-bas. Je peux le voir ce matin-là. J'imagine que lui et Jézabel avaient eu quelques disputes. Mais le voilà qui descendait ce jour-là, un petit bonhomme chauve, la barbe qui pendait. Il descendait ce matin-là, sur la route qui menait à Samarie. Ses yeux se sont fixés sur le ciel, un sourire aux lèvres. Ce vieux bâton se heurtait contre la route. Mes frères, il avait l'ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Il s'est avancé juste en face du président ou du roi. Il a dit, il ne tombera pas même de rosée du ciel tant que je ne l'aurai pas fait venir. Qu'est-ce que c'était? Il avait une commission. Est-ce qu'il a plu le lendemain? Non, il en avait la confirmation. Voyez, il a dit, monte là-haut, Élie, et assieds-toi. J'ai donné l'ordre que pour toi, des porteurs et des serviteurs viennent te nourrir. Donc, les corbeaux l'ont nourri. Et un jour, pendant qu'il était là-haut sur la montagne, « Oh !» a dit le roi, « ce gars-là n'a rien d'intéressant. Je vais envoyer 50 hommes là-haut. Je ne crois pas qu'il soit autre chose qu'un vieux fanatique. Ne savons-nous pas, ici, qu'il parle de Jézabel, ma femme, du fait qu'elle se maquille et tout, et il parle de tout ce mode de vie moderne. Et les gens qui vivent en suivant l'exemple de la première dame, comme le font beaucoup d'entre nous, les pentecôtistes. Oui, c'est vrai. Nos femmes pentecôtistes, avec ces grandes coiffures qui donnent un air d'hydrocéphale, et des choses comme ça, oui, oui, qui se peinturlurent, se maquillent, portent des shorts. Et la Bible dit, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Comment pouvez-vous faire ça? C'est vrai. Eh bien, vous savez, si vous prétendez, sœur, vous, quelque chose a été perdu, si vous avez les cheveux coupés, alors que la Bible dit, maintenant, beaucoup d'entre vous, les femmes pentecôtistes, vous ne porterez pas de maquillage. Il n'y a rien dans la Bible à ce sujet. Mais là, vous vous couperez les cheveux. Et la Bible dit, une femme qui se coupe les cheveux est déshonorante. C'est vrai. Et vous porterez des shorts ou ces espèces de petits... Qu'est-ce que... Voyez, peu importe ce que c'est, ça ressemble à des vêtements d'homme. Et la Bible dit que toute femme qui portera un vêtement comme celui-là, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Autrement dit, ça sent mauvais aux yeux de Dieu. Ça a l'air mauvais. Et puis, si vous avez le Saint-Esprit en vous, ce qui est Dieu, comment pouvez-vous les porter et prétendre quand même avoir le Saint-Esprit? Eh bien, votre propre vie confirme qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. C'est vrai, je sais que ça écorche, mais je vais vous dire ce qui ne va pas ce soir. Nous avons besoin que ça écorche un peu plus. C'est ce dont ils ont besoin, de plus de correction. C'est vrai, c'est le problème. Nous délaissons ces choses. Frère, je vais vous dire une chose. Vous devez apprendre votre alphabet avant de pouvoir monter plus haut. Voyez-vous, c'est tout à fait vrai. Toujours croire que la parole de Dieu est vraie. Peu importe ce que c'est, comparez-le simplement avec cela. Oui, monsieur. Élie était assis au sommet de la montagne, là. Et Dieu a dit, « Maintenant, tu ne seras pas dérangé. » Il a dit, « Je vais t'envoyer là-haut jusqu'à ce que ces gens se repentent. » Oh, a dit Akab, « Nous n'avons pas à nous repentir. Ce vieux fanatique, il ne sait pas de quoi il parle. Il fait partie de ces espèces d'exaltés. Nous, donnez-moi 5 ans des meilleurs hommes. Montez là-bas et faites descendre ce vieux fanatique. » Je peux voir cet officier mandaté dire, « Oui, monsieur, j'ai reçu la commission que vous m'avez donnée, monsieur. Je vais le ramener tout de suite. » Le voilà qui vient, en marchant au pas, le fer qui claque sur le sol, ses grandes épées et ses lances, et 5 ans des meilleurs hommes de la garde d'Akab avancent en montant la colline, comme ça. Élie est assis là, sous le soleil brûlant. Il regarde autour de lui, comme ça. Ils ont dit, « Hé, nous venons te chercher, mon gars. Nous avons ici notre accréditation. Nous sommes les gardes du corps d'Akab. Nous venons te chercher. Nous allons te ramener avec nous. » Il s'est levé et a dit, « Oui, j'ai aussi une accréditation. Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel. » Qu'est-ce que c'était? C'était une confirmation. Oui, monsieur, sur la montagne du Carmel, quand il a eu la confrontation entre les faux dieux et le vrai Dieu, il a déposé le sacrifice. Il s'est avancé là et a dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout ceci sur ton ordre. Prêchez la parole sur ton ordre, Seigneur, par tout le monde, à toute la création. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ton ordre. Maintenant, Éternel, que l'on sache que tu m'as dit de faire ceci. Tu m'as donné la commission de faire ceci. Maintenant, confirme-le, Seigneur. » Et à peu près à ce moment-là, le feu est tombé du ciel. C'était une confirmation de cela. Il était avec la parole. Voyez, Dieu confirme toujours sa parole. Il donne la confirmation de sa parole. Or, nous savons que ça, c'est vrai. Oh, c'est souvent ça. Nous avons différents personnages ici avec lesquels nous pourrions continuer comme ça. Mais pour gagner du temps, Jésus, quand il est venu sur terre, ils ont dit, « Lui étant un homme, il se fait Dieu. » Oh là là. Eh bien, nous savons qui il était. Il est un enfant illégitime. Voyons, nous connaissons sa mère, Marie et Joseph. Ils ont eu cet enfant à... Jésus a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. » Vous ne croyez pas que je suis le Messie? Les œuvres que je fais confirment ce que je déclare. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne croyez pas cela. Mais si je fais les œuvres de mon Père, alors croyez aux œuvres, même si vous ne pouvez pas me croire. C'était une confirmation. Comment cela s'appliquait-il à eux? Certainement, il a dit, Dieu, celui que Dieu envoie, Dieu le protège. Dieu confirme la parole. Si Dieu a envoyé un ambassadeur quelque part pour faire quelque chose, il doit appuyer cette commission. C'est tout à fait vrai. Il a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors vous ne me croyez pas. » Mais a-t-il dit, « Les œuvres même que je fais confirment ma commission. » Amen. Ça, ça leur a vraiment donné un bon coup, n'est-ce pas? Les œuvres que je fais. Oui, oui, monsieur. Si vous ne pouvez pas croire que j'ai été envoyé de Dieu, alors ce que vous devez faire, c'est de croire que les œuvres que je fais ou que je vous vois faire les mêmes œuvres. Voilà, c'est ça. Si vous ne me croyez pas, ça, oh là là. Certains croyaient en lui. Quand la femme au puits a vu son signe messianique, elle a dit, « Nous savons que le Messie fait cela. » Elle est allée dire aux gens, elle a dit, « Venez voir qui j'ai trouvé, un homme qui m'a dit les secrets mêmes de mon cœur. » N'est-ce pas là le Messie? Le brave Nathanaël, quand il est revenu avec Philippe et que Jésus, qu'il s'est avancé dans la présence de Jésus, et Jésus a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Or, c'était un homme qui avait reçu une formation parce qu'il connaissait la parole. Il savait que le Messie serait un Dieu prophète. Alors, il savait que Moïse avait dit ça, « L'Éternel ton Dieu suscitera un prophète. » Il savait aussi que Dieu avait dit, « S'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, moi, l'Éternel, je le confirmerai. » je vais, ce qu'il dit s'accomplit, alors croyez cela. Voyez, il voulait voir s'il l'était. Il savait qu'un prophète devait être suscité vers cette époque-là, et il voulait savoir qui il était. Alors, il s'est avancé en présence de Philippe, et Philippe lui a dit ce qu'il devait faire. Ou plutôt, Philippe l'a emmené dans la présence de Jésus. Et quand il s'est avancé devant Jésus, Jésus a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, Rabbi ?» Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » Il a dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu !» Voilà son accréditation. Une femme au puits, quand il l'a trouvée là, au puits, il a dit, « Apporte-moi à boire. » Elle a dit, « Ce n'est pas la coutume. Tu t'écartes complètement de notre tradition ici. Nous avons une ségrégation. Nous, les Juifs et les Samaritains, nous n'avons aucune communion les uns avec les autres. Toi, qui es un homme, un Juif, et moi, une Samaritaine, comment se fait-il que tu me demandes de te rendre service ?» de t'apporter à boire. Il a dit, « Femme, si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. » Et elle a dit, « Eh bien, le puits est profond, tu n'as rien pour puiser. » Il a dit, « L'eau que je donne n'est pas dans ce puits. » Cela a continué. La conversation a duré un moment, voyez, jusqu'à ce qu'il, la chose qu'il essayait de faire, contactait son esprit. C'est alors qu'il a découvert quel était son problème. Il a dit, « Va chercher ton mari et viens ici. » Il voulait qu'elle sache qui il était. Il a dit, « Va chercher ton mari et viens ici. » Elle a dit, « Je n'ai point de mari. » Il a dit, « C'est vrai, tu en as eu 5, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. » Elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Elle a dit, « Nous savons que le Messie, quand il viendra, il fera cela. » Il a dit, « Je le suis, moi qui t'ai parlé. » Elle est entrée dans la ville. Cela lui a été confirmé. Elle est allée dans la ville et a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie ? N'est-ce pas là une confirmation qu'il l'est ?» Jésus a dit, « Les œuvres mêmes que je fais confirment ma commission. » C'est vrai, Dieu l'a envoyé. C'est lui qui devait être ce prophète. Vous savez, on a demandé à Jean, « Es-tu Élie ? Et es-tu l'un des prophètes ? Es-tu le prophète qui devait venir ?» Jean a dit, « Je ne le suis pas, mais il est au milieu de vous, quelque part. Il démontrera ce qu'il est quand il viendra, car Dieu le confirmera. » C'est tout à fait vrai. Si un homme est envoyé de Dieu, Dieu est tenu de confirmer cette personne. C'est tout à fait vrai qu'il est envoyé. Oh oui, une confirmation. L'homme qui était né aveugle avait un témoignage très convaincant qu'il était le Messie. Or, ce pauvre homme, quand tous ces théologiens l'ont trouvé au milieu de la foule là-bas, ils ont dit, « Dis donc, nous savons que tu es né aveugle. » Ils ont dit, « Nous savons que tu n'avais pas de globe oculaire, même dans tes orbites. » Ils ont dit, « Nous savons que tu es né aveugle. » Ils ont dit, « Qui t'a guéri ?» Il a répondu, « Cet homme m'a dit que j'étais guéri. » Il a dit, « Je sais qu'il m'a guéri. » Il a dit, « Je le sais. » Ils ont dit, « Eh bien là, cet homme est un pécheur. Nous savons qu'il est un pécheur parce qu'il n'a pas adhéré à notre organisation. Il n'est pas venu chez nous. Il n'enseigne pas notre doctrine. Il est contre nous. » Ils ont dit, « Nous savons qu'il ne peut pas être de Dieu. Nous savons qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui parce qu'il n'était pas d'accord avec nous. » Ils ont dit, « Cet homme est un pécheur. » Or, ce pauvre aveugle ne pouvait pas débattre ce point. Il n'était pas un théologien. Il ne pouvait pas débattre ce point. Il a dit, « Eh bien, mais il avait aussi un argument très convaincant. » Il a dit, « S'il est un pécheur ou pas, je ne sais pas. » Mais il y a une chose que je sais. Amen. J'étais aveugle et maintenant je vois. J'ai entendu des gens dire que c'était une bande de fous. Des gens m'ont dit, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, que j'avais perdu la tête. Eh bien, si c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais. J'étais un pécheur et maintenant je suis sauvé. C'est vrai. J'étais perdu. Je suis maintenant retrouvé. Vous pouvez appeler ça du fanatisme ou ce que vous voulez, mais c'est une confirmation pour moi qu'il est toujours Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vrai, oui, il avait la preuve, il avait un discours très convaincant qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il avait créé des globes oculaires dans un homme qui n'avait pas de globes oculaires. Oui, monsieur. Autre mot dit, l'aveugle pourrait dire, je fréquente votre église depuis tout ce temps. Je ne vois rien de semblable se produire ici. Alors, s'il a créé des globes oculaires, il n'y a pas d'autre créateur que Dieu. D'où cela pourrait-il venir? Que je vous vois le faire. Que je vois comment vous le faites. Ils ont été obligés de se taire. Ils parlaient d'un Dieu surnaturel, le grand créateur des cieux et de la terre. Et ils ne pouvaient pas créer une bonne vie. Voyez, voilà, ils ne pouvaient rien créer. Mais voici Jésus qui vient et qui met des globes oculaires dans un homme qui n'avait pas de globes oculaires, qui était né aveugle. Je vous le dis, c'est convaincant. C'est à l'usage que l'on peut juger de la qualité d'une chose. C'est tout à fait vrai. Donc, il avait la preuve qu'il existait. C'est vrai, j'imagine Paul, là-bas, cette nuit-là, alors qu'il y avait 14 jours et 14 nuits, qu'il n'y avait ni lune, ni étoile, ni rien, là-bas sur la mer. Le pauvre homme qui traînait ses chaînes sur le pont de ce vieux bateau plein d'eau, qui était sur le point de sombrer. Ils avaient jeté toute la nourriture et tout par-dessus bord. Et les marins n'avaient pas mangé depuis bien des jours. Et il traînait ses chaînes en parlant d'un Jésus qui avait vécu, en parlant d'un Jésus qui avait été crucifié. J'imagine que ces soldats et ces marins ont dit, « Oh, miséricorde, tais-toi !» Ils continuaient simplement à marcher de long en large, en disant, « Mais, vous savez, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, en marchant comme ça, sur le pont, en tirant ses chaînes. » Ils ont dit, « Regardez ce gars enchaîné, un gars qui s'en va vers César, là-bas, à Rome, pour être condamné. Cet homme doit mourir. » Et là, il parle de quelque chose au sujet de la religion. « Oh, tais-toi !» Et ils ont continué à faire ce qu'ils pouvaient. Mais un soir, alors qu'il n'y avait plus d'espoir, oh là là, chaque fois qu'il y avait un éclair, une vague, 10 000 démons se posaient sur ses mers. Ils disaient, « Nous t'avons maintenant, Paul. Oh, tu vas reprendre tes paroles. » Non, monsieur, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vrai, je sais qu'il m'a dit d'aller à Rome. Le voici, il est ballotté, le bateau est sur le point de sombrer. Pensez-y, le soleil, la lune ou les étoiles n'avaient pas brillé depuis 15 ou 14 jours. Ça, c'est être en mauvaise posture. Un vieux bateau plein d'eau et tout est sur le point de sombrer. Et tout est tout. Il se tenait là, dans la coque du bateau, un soir. Sans doute qu'il priait et une vision est venue. L'ange du Seigneur lui est apparu. Il lui a dit, « Ne crains point, Saul, tout va bien. Le voilà qui arrive. Il monte en courant avec une commission, en secouant ses chaînes, et dit, « Prenez courage, ayez une foi solide, car le Dieu que je sers a envoyé son ange hier soir. J'ai eu une vision, et il m'a dit de ne rien craindre, parce que personne ne perdra la vie sur ce bateau. C'est pourquoi, frère, prenez un peu de nourriture et réjouissez-vous. Tout va bien. » J'imagine qu'ils ont eu une drôle d'impression. Mais quand ils ont vu que le vieux bateau était bien arrivé au port, là-bas, cela confirmait que Paul avait été envoyé par Dieu et qu'il savait de quoi il parlait. Dieu l'a confirmé. S'il y en a un parmi vous qui est prophète et que ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le, car je suis avec lui. C'est vrai, quand les indigènes sur cette île, les insulaires, quand ils l'ont vu ramasser des morceaux de bois, ils ont dit, « Ce doit être un terrible meurtrier, avec toutes ses chaînes sur lui. » Le pauvre petit Paul, qui était sur le point de geler, et ses vêtements tout mouillés, il est allé là et a ramassé un tas de morceaux de bois, et il s'est mis à les mettre au feu, et un serpent l'a mordu à la main. Cela l'aurait tué. Oh, en un instant, Paul l'a regardé comme ça, et il a dit, « Oh Dieu, tu m'as dit qu'il fallait que j'aille à Rome. » Il l'a secoué pour le faire tomber dans le feu. Puis il est retourné chercher d'autres morceaux de bois. Les gens ont dit, « Regardez-le bien, tombé mort. » Quelques minutes plus tard, ils ont changé d'idée. Pourquoi? Sa commission avait été confirmée. Ils ont dit, « C'est un Dieu qui est descendu du ciel. » Voilà, il avait la confirmation, parce que Jésus a dit, « Ils marcheront sur la tête des serpents et des scorpions, et rien ne leur fera du mal. » Oui, monsieur, il avait la preuve pour le démontrer. Maintenant, il faut que je me dépêche, mes amis. Je resterai ici avec vous toute la nuit, comme ça. Mais juste encore quelques points. Bon, le prophète a dit, « Il viendra un jour qu'on ne pourra appeler ni jour ni nuit. Un jour sombre, de brouillard, brumeux. Mais, a-t-il dit, vers le soir, la lumière paraîtra. » C'est vrai, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. S-O-L-E-I-L. La civilisation a voyagé de l'est vers l'ouest. Mais quand le FILS s'est levé, la lumière est descendue sur les gens de l'Orient. Maintenant, nous avons eu un jour d'organisation, de dénomination, et les gens ont accepté Christ, et ils ont eu assez de lumière pour savoir qu'il était Dieu, et ils ont marché dans la lumière, et ainsi de suite. Ils ont construit des églises, de belles cathédrales, des écoles, et ainsi de suite. C'était très bien, mais souvenez-vous, il était promis que tous les nuages se dissiperaient au temps du soir. C'est maintenant le temps du soir. Et quand tous les nuages se seront dissipés, ce même Fils, F-I-L-S, qui a fait briller sa puissance par le Saint-Esprit sur les gens de l'Orient, il a, au cours des 50 dernières années, écarté les nuages des dénominations et tout, et il a déversé le Saint-Esprit sur les gens de l'Occident. Que le même Fils, le même Saint-Esprit, le même signe, les mêmes lumières, la même puissance, la même preuve, la même chose en tout point que cela était. Et l'Évangile a été prêché avec puissance et démonstration partout dans les pays. C'est vrai, partout dans le monde, des signes et des prodiges accompagnent les croyants. Tenez, il y a quelques années, ils ont dit, ce groupe-là, ont-ils dit, eh bien, vous n'y arriverez jamais. Ils ont dit, ils n'arriveront jamais à répandre cela. Ils ont dit, ils ne sont qu'un petit groupe là-bas, quelque part dans la rue, avec une poêle en fer blanc quelque part, en battant un petit tambourin. Mais frère, ce message, grâce à des gens au cœur affamé qui ont sacrifié leur nourriture pour leurs enfants et tout le reste, ils ont parrainé ces missionnaires, si bien qu'il est allé de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Quel que soit le pays où vous allez, il y a des feux pentecôtistes qui brûlent par la puissance du Saint-Esprit. Je suis allé tellement loin dans la jungle, là où les gens ne savaient même pas distinguer leur droite de leur gauche. Ils ne connaissaient pas plus Dieu qu'ils ne connaissent les statues là. C'est vrai, je me tenais là et je présentais exactement la parole. Ensuite, le Saint-Esprit a opéré les signes et a montré, a dit aux gens qui ils étaient, dévoilé les secrets de leur cœur, leur a montré que Jésus a dit, « Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Cet homme, je ne connais pas son nom, mais je vais l'appeler. Et vous, interprétez cela pour moi. Il fallait que j'appelle peut-être tant de lettres pour arriver à le dire comme ça. Amen. C'est vrai. Il s'asseyait et regardait. Je disais, maintenant, Jésus a dit, vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Ça, c'était son signe messianique. Et Jésus est si près de venir sur la terre maintenant que sa puissance a commencé à s'emparer des gens pour terminer l'œuvre en eux, les préparer pour être l'épouse, les préparer à être enlevés dans l'enlèvement. Une église qui conviendra parfaitement, qui sera enlevé. Par sa puissance, il fera sortir de la terre tous les autres qui sont nés de nouveau. Jésus vient, comme ma main contre le mur ferait une ombre. Plus, cette ombre devient de plus en plus marquée, plus ma main se rapproche. Et au bout d'un moment, l'ombre et ma main deviennent un. Et l'Église a commencé à l'époque de Martin Luther, sous la justification, sous Wesley, par la sanctification, et maintenant, dans le baptême du Saint-Esprit, chez les pentecôtistes, la restauration des dons. Et de ce peuple pentecôtiste, il attire ce reste ici, en haut, pour montrer Jésus-Christ en train de refléter sa vie. Exactement le même hier, aujourd'hui et éternellement. Exactement, quand brillent les lumières du soir. C'est exact. Regardez là, un signe scientifique. Nous l'avons juste là-bas, à Washington, D.C. Cette même colonne de feu. Combien ont déjà vu cela? Ces lumières, certainement, partout. Voyez, voyez, cette même colonne de feu qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Jésus, quand il était sur terre, tout le monde sait que Christ, que la colonne de feu, l'ange du Seigneur, qui a fait sortir Israël d'Égypte pour aller dans le pays promis, c'était l'ange de l'Alliance. Tout le monde sait ça, certainement. Eh bien, c'était Christ. En effet, la Bible dit que Moïse a choisi l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et il a marché avec Christ avant qu'il devienne chair. Et il a suivi cette lumière. Jésus, quand il était sur terre, il a dit, « Je viens de Dieu et je vais à Dieu. » Ils l'ont crucifié. Il était le Sauveur qui est mort pour nos péchés. Et on l'a enseveli. Il est ressuscité et monté en haut. Et quelques mois plus tard, Paul était en route vers Damas. Et il était terrassé par une lumière. Un groupe de soldats était avec lui. Aucun d'eux n'a vu cette lumière. Aucun d'eux ne l'a vu, lui, sauf Paul. Mais c'était tellement frappant pour lui que cela l'a rendu aveugle. Il a été aveugle pendant un certain temps. Il a levé les yeux et cette grande colonne de feu était suspendue devant lui. Et il a dit, « Saul, Saul !» pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Maintenant, ce même Saint-Esprit, nous le trouvons parmi les pentecôtistes aujourd'hui, la lumière du soir, là, parmi les pentecôtistes. Quoi? Ils prêchent le même évangile. Ils confirment le même évangile. Les mêmes signes qui ont accompagné là-bas sont les mêmes signes qui accompagnent maintenant. Et si cette colonne de feu où cette lumière que nous avons avec nous n'a pas produit le même esprit et la même preuve qu'elle a produit lorsqu'elle était en Jésus-Christ, alors il s'agirait de la mauvaise colonne de feu, du mauvais esprit. Ce serait la mauvaise chose. Mais si elle produit et fait exactement ce que Jésus a fait quand il a dit que « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais ». Voilà, il en fera davantage parce que je m'en vais au Père. Dans la version du roi Jacques, il est dit « de plus grande ». Mais regardez, dans l'original. Il est dit « davantage ». Vous ne pourriez rien faire de plus grand. Il a ressuscité les morts et il a arrêté la nature et tout. Mais il pouvait en faire davantage parce que le Saint-Esprit n'était pas seulement dans un seul homme. Christ, le Fils de Dieu, il était dans l'Église universelle. Vous en ferez davantage parce que je m'en vais au Père. Oh là là, c'est le même ministère qui est représenté ici dans les derniers jours. Quel genre de ministère avait-il? Observez-le, comme je vous l'ai présenté tout le long, leur donnant la preuve. Prenons un juif. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Les tout premiers hommes qui sont venus à lui ont été André et Philippe. Je ne sais pas ce qui s'est passé au cours de cette conversation dans la maison avec Jésus ce soir-là, quand ils l'ont suivi. Mais le lendemain, André était vraiment convaincu que c'était le Messie. Il lui a montré quelque chose, au point qu'il est allé directement vers Pierre, son frère, ou Simon. Et il a dit, ne viens pas maintenant pour voir si c'est bien ça. Il a dit, nous avons trouvé le Messie. Là, je peux imaginer Pierre dire, bon, André, là, je vais te dire quelque chose, fiston. Maintenant, tu sais que notre vieux papa était un bon pharisien. Et il nous a dit, je me souviens qu'un jour, j'étais assis sur le bord du bateau. Il a dit, eh bien, Simon, papa s'attendait à voir le Messie. Et sans doute qu'avant que le Messie vienne, il se passera toutes sortes de choses. Toutes sortes d'ismes s'élèveront. Mais que je m'assure, effectivement, il y en avait. Oh oui, les gens sont venus, ils ont entraîné des milliers de personnes. Et ils ont péri et tout. Mais il a dit, mais je vais te dire, nous devons nous en tenir à la parole, Simon. Or, la Bible dit que Moïse, notre serviteur, le serviteur de Dieu pour nous, il nous a dit que le Seigneur notre Dieu susciterait ce Messie et il serait un prophète comme Moïse. Bon, Simon, si tu le vois en ton jour, je suis trop vieux maintenant, je ne le verrai pas en mon jour, mais si tu le vois en ton jour, souviens-toi, il sera le Dieu prophète. Simon avait donc cela dans son cœur. Il a dit, très bien, André, j'irai à la réunion. Aussitôt qu'il s'est avancé dans la présence du Seigneur Jésus, il a dit, ton nom est Simon. Ton père était Jonas. C'était réglé. Il a reçu les clés du royaume. C'était le signe du Messie. Voici un autre fervent juif qui arrive. Il dit, bon, attends un instant. Si le Messie était venu, il serait arrivé des corridors du ciel et il serait venu dans notre grand et beau temple que nous avons construit ici quelque part, comme d'autres ici qui croient qu'il viendra dans un temple quelconque. Et il viendra ici, il descendra juste ici et les anges battront des ailes et tout. Ils disent, ceci, c'est le Messie. Ceci, c'est le Messie. Ceci, c'est le Messie. C'est ce qui arrivera. Je peux entendre Philippe dire, « Attends un instant, ce que tu dis, ce n'est pas l'Écriture. Tiens-t-on à la parole. Qu'est-ce que Moïse nous a dit que serait le Messie? L'Éternel ton Dieu suscitera un prophète. » Tu te souviens de ce vieil homme qui avait l'habitude d'être là-bas, du nom de Pierre, Simon? Oui. Oh, ce vieil homme n'avait pas d'instruction? Oui, je me souviens de lui. Oui. Je me souviens de lui. Tu lui as acheté du poisson et il ne pouvait pas signer ton reçu. Oui, eh bien, je me souviens de lui. Je me souviens de lui, oui. Eh bien, quand il s'est approché, tu connais son père? Eh bien, certainement, bien sûr, je connaissais très bien son père. C'était un vrai pharisien, oui, un vrai érudit, oui. Eh bien, quand Simon s'est avancé devant lui, il lui a dit quel était son nom et quel était le nom de son père. Ah, maintenant, je crois que tu as perdu le nord. Je vais y aller pour voir. Il ne lira jamais dans ma pensée. Je vais aller vérifier ça. Il s'est avancé là, dans la présence de Jésus. Et Jésus a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Il a dit, « Lui as-tu dit que tu venais me chercher ?» Il a dit, « Non. » Il a dit, « Rabbi, ce qui veut dire maître ou docteur. Quand m'as-tu déjà vu ? Je viens d'arriver à cette réunion ce soir. Quand m'as-tu déjà vu ? » Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » Quels yeux! Il a dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Mais il y avait là ses grands frères dénominationnels qui se tenaient là. Ils ont dit, « Vous savez quoi? Il fait ces choses par Belzébul. » Vous voyez, ils devaient rendre des comptes à leur assemblée. Ils avaient une accréditation terrestre. Il en avait une céleste, vous voyez, parce que Moïse a dit, « Il sera un prophète. » Et il était là, démontrant qu'il était un prophète. C'est vrai, il était confirmé. Sa commission était confirmée. Alors il a dit, « Bon, je sais que cet homme fait ça, mais il fallait qu'il rende des comptes à son assemblée. » Il a dit, « C'est par Belzébul qu'il fait ceci. Il chasse les démons. » Jésus s'est retourné. Il connaissait leurs pensées. Il a dit, « Si vous dites cela contre moi, le Fils de l'homme, je vous pardonnerai pour cela. » Là, ils ne l'ont jamais dit à haute voix. La Bible dit, ils pensaient cela dans leur cœur et ils connaissaient leurs pensées. Jugez cela correctement, oui, monsieur. Il a dit, ils pensaient dans leur cœur. Voyez, ils connaissaient leur cœur, leurs pensées. Il a dit, « Maintenant, si vous dites cela contre moi, le Fils de l'homme, je vous pardonnerai. Mais un jour, tout là-bas, dans le monde des nations, voyez, le Saint-Esprit viendra après mon départ, et il fera la même chose. Et de prononcer un seul mot contre lui ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Avant qu'il quitte la terre, il a dit ceci. Il a dit, « Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Je veux faire cette remarque et terminer. Ce qui arriva du temps de Lot, là-bas, à Sodome. Voyons ce que c'était. Il a d'abord fait référence au temps de Noé. Il a dit ce qu'ils faisaient. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Mais quand il a parlé de Sodome, regardez ce qu'il a fait du temps de Sodome. Sodome, il a fait référence à cela pour cet âge-ci. Maintenant, souvenez-vous, les Sodomites étaient des gens des nations. Voyez, remarquez. Et un jour, trois hommes sont venus à Abraham. Il y a toujours trois catégories de gens. Ce sont les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Nous les avons encore aujourd'hui, c'est vrai. Les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Les sodomites, les lotites et les abrahamites. Abraham avait la promesse. Il était le groupe élu, appelé à sortir, qui s'était séparé, comme la vraie église du Dieu vivant, qui s'est séparée des choses du monde, parce qu'il s'appuyait sur la promesse de Dieu. À qui les anges sont-ils venus, premièrement? À Abraham. Qu'est-il arrivé? Deux d'entre eux sont descendus à Sodome, des Billy Graham modernes, là-bas à Sodome. Ils ont prêché l'Évangile, n'ont pas fait beaucoup de miracles. Ils les ont simplement frappés d'aveuglement. La prédication de la parole les frappe d'aveuglement. Donc, ils n'ont pas fait beaucoup de miracles. Mais ils criaient, « Sortez de là !» Mais il y en a un qui a parlé à Abraham. Vous savez, Abraham a eu une drôle d'impression. Vous savez, il y avait quelque chose au sujet de cette personne. C'était un peu différent. Alors, il l'a observé un peu, vous savez. Et il a dit à Sarah, il a dit, « Maintenant, retourne dans la tente. » Bien sûr, à cette époque-là, quand un étranger arrivait, les femmes n'agissaient pas comme elles le font aujourd'hui. Il faut qu'elles sortent tout de suite, qu'elles se présentent là et qu'elles prennent la place du mari. « Eh, tu ne peux pas vendre ça, Jean, à moins que je te le dise. » Voyez, les femmes avaient plus de décence à cette époque-là. Elles restaient à la maison, voyez-vous. Donc, ils sont allés là-bas, et Sarah est restée dans la tente. Il est alors rentré en courant, il a dit, « Sarah, pétris un peu de farine tout de suite. Tamise-la pour en défaire tous les morceaux. Fais-en dans l'âtre du pain. » Il est allé chercher un veau et l'a tué. Et il s'est avancé. Il leur a dit, « Apprêtez-le maintenant. » Et préparez-le. Il est allé chercher le vieux chasse-mouche, et il s'est mis à chasser les mouches, et il leur a lavé les pieds. Il savait, il y avait un petit quelque chose qui brûlait dans son cœur. On peut le reconnaître, vous savez, un peu. Il a dit, « Voilà la commission, je crois. Maintenant, la seule chose, si seulement je peux voir cette commission être confirmée. Je crois qu'ils l'ont. » Il a dit, « Vous savez, vous êtes passé par ici pour me voir. C'est pour cette raison que vous êtes venu par ici. » C'était vrai, voyez. Asseyez-vous un peu sous le chêne et reposez-vous. Il leur a donc lavé les pieds pour donc qu'on préparait les choses. Ils se sont assis et ont mangé. Et c'était Dieu, le Dieu Tout-Puissant. La Bible a dit que ça l'était. Regardez là-dedans et voyez s'il n'est pas écrit S majuscule E-I-G-N-E-U-R. Elohim. C'est vrai. Comme quelqu'un l'a dit bien des fois, il a dit, « Vous ne croyez pas que c'était Dieu. » J'ai dit, « C'était Dieu. La Bible a dit que ça l'était. Vous, il a dit, « Dieu dans ce corps qui mange de la chair ?» Certainement, la Bible dit, vous ne vous rendez pas compte combien il est grand. C'est vrai. Je suis heureux qu'il puisse faire ça. Eh bien, la seule chose, vous savez, c'est que nous sommes composés de 16 éléments. Du pétrole, de la lumière cosmique, du calcium, de la potasse, et quelques éléments comme ça. Eh bien, il a simplement tendu la main, et on a pris une poignée. Il a fait, « Entre là-dedans, Gabriel !» Voyez, l'ange. Il en a pris une autre poignée. Il a fait, « Il a dit, « Entre là-dedans, Michel !» Il a fait, « Il y est entré lui-même. J'en suis si heureux !» Voyez, il s'est avancé. Il a dit, « Je descends là-bas. C'est notre Dieu. » Un de ces jours, tous ces éléments disparaîtront. Mais il dira, « William Branham ?» Je dirais, « Me voici, Seigneur !» Il est grand, oui. Il a dit, « Je dois me présenter devant mon serviteur là-bas, et je veux être un homme comme lui. » Alors, il est simplement descendu, s'est assis là, de la poussière sur ses vêtements. Il s'est assis et il a mangé. Il s'est assis. Il ne cessait de regarder en direction de Sodome. Vous savez, Abraham savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que c'est un endroit où il y avait beaucoup de méchanceté, vous savez. Alors, il y pensait constamment, comme ça. Il a dit, « Maintenant, souvenez-vous, son nom avait été Abraham, et le nom de Sarah avait été S-A-R-A-I, tréma, Sarai. » Et quelques jours auparavant, Dieu l'avait rencontré dans une vision et avait changé son nom en Abraham. Et son nom à elle, en Sarah, S-A-R-A, Sarah, princesse, Abraham, père de nation. Alors, il a dit, « Abraham ?» Abraham a dit, « Oh, je sais que j'avais raison. » Il y a quelque chose chez cet homme qui est différent. Abraham, où est ta femme? S-A-R-A. Sarah, où est ta femme? Sarah. Il l'a su tout de suite. Oh, a-t-il dit, elle est dans la tente. Et la Bible dit, c'était derrière lui. La tente derrière lui. Il a dit, Abraham, je, un pronom personnel, celui-là même qui lui avait parlé, je vais te visiter. À la période de la vie, tu vois, avec Sarah. Et vous aurez ce bébé que vous avez attendu. Tu as 100 ans maintenant, et elle en a 90. Mais je vais te donner ce bébé que je t'ai promis, parce que tu as été fidèle dans la tente. Et Sarah, là derrière, dans la tente, elle a dit, elle ne l'a jamais dit à haute voix, elle a ri en elle-même. Elle a dit, moi, une vieille femme, avoir encore du plaisir, et mon Seigneur, vieux comme ça? Elle a dit, c'est tout simplement impossible. Ce gars-là, de quoi parle-t-il? L'ange a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Qu'est-ce que c'était? Il s'est dirigé vers Sodome. Immédiatement après la visitation de cet ange, ce dernier signe qui était donné, Sodome a brûlé. Jésus a dit, « Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Depuis toujours, Dieu traite avec son Église par des signes, des prodiges. Mais la dernière chose qui doit arriver, c'est que Dieu soit manifesté dans la chair de son Église, comme il était dans la chair humaine là-bas. Et opérer ce même signe que le Messie s'était déjà présenté parmi les gens, juste avant que le feu tombe au dernier jour. Une accréditation pour confirmer que la parole que Jésus a promise est la vérité. Prions. Notre Père Céleste, c'est ta parole, la confirmation d'une commission. C'est ta parole, Père. Nous pouvons seulement la prononcer. Je te prie de la confirmer, Seigneur. Et je sais que je prie que tu me pardonnes ma nervosité et mon illettrisme et tout ce qui s'y rapporte, et que tu enlèves ceci de l'esprit des gens, ma pauvre façon décousue d'essayer d'apporter un message. Et le Saint-Esprit qui s'empare de moi, je ne sais pas comment faire, si ce n'est donner libre cours à cela, Père, étant ici avec des hommes et des femmes qui sont des pèlerins et des étrangers. Alors que le monde entier est ébranlé aujourd'hui, ils disent que maintenant, dans quelques jours, ils vont maintenant faire circuler un homme autour du monde, sur une orbite, lui faire faire le tour du monde, essayant d'envoyer un homme sur la Lune. Le monde entier frémit et tremble. Des petites nations, partout, avec des missiles qui éclateront et feront un trou dans le sol de 45 mètres de profondeur. Sur un carré de 400 ou 500 kilomètres de côté, trois de ces missiles, d'un seul coup, cela détruirait la terre entière. Le monde entier est dans un état de névrose. Les églises se sont éloignées de la parole. Il y a toutes sortes d'organisations et de dénominations qui portent une accréditation terrestre. Et si vous n'en faites pas partie, vous ne pouvez pas mettre la tête dans l'une de leurs églises. Mais pourtant, comme c'est arrivé au temps de Noé, comme c'est arrivé tout au long de la Bible, tu envoies quand même tes prophètes et tes serviteurs, Seigneur, avec une commission, avec une confirmation pour l'appuyer. Ô Dieu, j'en suis si heureux, car tu as promis cela. Et maintenant, Seigneur, tu as dit, « Ne crains point, petit troupeau, ton Père a trouvé bon de te donner le royaume. » Tu as dit, « Ce qui arriva du temps de Noé, quand ce petit groupe a été sauvé par l'eau, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Du temps de Lot, quand, du temps de Noé, ils mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Et regarde ça aujourd'hui, Père, nous voyons cela. Or, ça s'adressait au monde pécheur qui faisait cela. Et maintenant, regarde au temps de Lot, la perversion, les homosexuels. Oh, comme cela s'est emparé du monde, du pays tout entier, de la grande partie de notre gouvernement et partout. Oh, nous sommes rongés par les vers, Seigneur, par les démons et par la puissance de l'ennemi. Le monde entier est complètement paniqué. Et toute notre, même notre nation, est comme un petit garçon qui traverse un cimetière la nuit en sifflotant pour ne pas avoir peur. Nous savons que cela est à nos portes. L'Église, Seigneur, tu as dit, levez vos genoux, levez les yeux quand ces choses commenceront à arriver. Votre rédemption approche. Le Saint-Esprit a été répandu sur ton Église. Tu as appelé des gens de toutes les nations, des Mexicains, des Blancs, des Anglo-Saxons, des gens de couleur, des Éthiopiens, de toute race, partout dans le monde, comme tes petits missionnaires remplis du Saint-Esprit sont partis, affamés, souffrant de la faim. Beaucoup d'entre eux ont été tués, crucifiés, ridiculisés et tout le reste. Ils sont partis sans qu'une grande église les parraine. Ils ont suivi la commission de Dieu avec « Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Je les ai rencontrés dans les champs de mission là-bas, Seigneur. Nous avons eu la grande puissance de Dieu de parler en langue, d'interpréter les langues. Nous avons eu les baptêmes du Saint-Esprit, les démonstrations de puissance. Et maintenant, Seigneur, comme tu as pris Abraham, qui représentait les élus, les appelés à sortir. Tu as fait traverser ce désert à Abraham. Tu l'as mis à part. Tu as opéré toutes sortes de signes pour lui. Mais le dernier signe, ça a été quand Dieu lui-même s'est manifesté en chair. Jésus, tu as dit, ce qui arriva en ce jour-là arrivera de même quand le Fils de l'homme viendra. Viens, Seigneur. Ceci est ta parole, aussi franche que je la connaisse. Je la crois, Seigneur. Il y en a d'autres ici qui la croient. Que cela se produise de nouveau, Seigneur. Que cela se produise à Tempe, comme confirmation de l'approche imminente du Seigneur Jésus. Accorde-le, Seigneur. Cela nous fortifierait tous, Seigneur. Cela fortifierait ses frères. Cela fortifierait tes ministres partout. Cela fortifierait les laïcs. Cela nous rendrait tous heureux. Accorde-le, Père. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est prononcer ta parole. Maintenant, Seigneur, il faut que toi, tu donnes cette confirmation. Je ne peux pas le faire. Mais si c'est une commission, j'ai prêché la vérité, et je crois, Père Céleste, que tu vas la confirmer par les signes que tu as promis qui seraient accomplis en ce jour-ci. Accorde-le maintenant. Je m'en remets à toi, avec cette Église, avec la parole. Maintenant, Père, nous nous attendrons à toi, si tu peux seulement nous montrer que tu es au milieu de nous. Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. C'est ta promesse. Et Père, combien cela fortifierait certains de mes frères ici? Combien cela fortifierait l'Église? Quelque chose qui n'est pas simplement mythique. Quelque chose qu'on dirait, « Oui, j'ai entendu prêcher ceci tout le temps. » Mais Père, fais qu'ils voient que tu es un Dieu qui tient ta parole. Maintenant, il faudra quelque chose de plus que moi, Père. Il faudra que cette Église soit d'un même accord. Il faudra une vraie foi pour le faire. Mais je te prie, Père, de l'accorder pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, mes amis, une ligne de prière. Oh, Je suis désolé. Excusez mes manières enthousiastes et décousues à la chair. Je prie que vous le fassiez. Mais je viens d'étudier le concile à Vonicée. Et j'ai pris les deux Babylones, d'Islop, et l'église ignorée de Broadbent, le concile à Vonicée, le concile de Nicée, et le concile d'après Nicée, les pères de Nicée. Et j'ai vu comment le Saint-Esprit les faisait agir. Ils n'avaient même pas d'autel dans leur église. Ils n'avaient rien comme un crucifix. Les catholiques romains sont allés de l'avant avec des dogmes, avec des crucifix. Mais les vrais orthodoxes sont restés en dehors de tout cela. Ils avaient de petits bâtiments, avec rien d'autre que des blocs de pierre. Et un saint homme expliquait la parole de Dieu. Et la puissance de Dieu descendait. Il levait simplement les mains et louait Dieu. Il parlait en langue. Et des signes et des prodiges les accompagnaient. Oui, monsieur. Polycarpe, Ignace, Martin, Irénée, Colomba. Oh là là, Justin. Combien d'autres vrais saints qui ne toléraient pas du tout cette autre église? Le côté romain, ils sont restés catholiques. Nous aussi, nous sommes catholiques, des catholiques apostoliques. Or, catholique, ça signifie universel. Mais les catholiques romains ont accepté le crucifix et les dogmes, et ainsi de suite, comme ça. Ils ont dit, pas la Bible. Dieu était dans son église. Dieu est dans sa parole. La Bible dit, si quelqu'un en retranche quoi que ce soit, ou y ajoute quoi que ce soit, sa part sera retranchée du livre de vie. Nous croyons seulement ce que Dieu a dit. C'est tout. Bon, donc, nous croyons toujours ce message. Maintenant, il y a des malades ici ce soir. Je vous ai prêché que Dieu confirme sa commission. C'est vrai, Dieu veille sur sa parole pour la confirmer. La seule chose qu'il essaie de faire, c'est de trouver un cœur dans lequel il puisse entrer. Maintenant, ne pensez pas que vous allez y aller trop fort. Vous ne le ferez pas. Pouvez-vous imaginer un petit poisson d'environ 1 centimètre de long, là-bas, au milieu de l'océan, dire « Je ferais mieux de boire de cette eau avec modération. Je pourrais en manquer. » Certainement pas. Eh bien, vous ne pourriez jamais épuiser la puissance de Dieu et la bonté de Dieu. Vous ne le pourriez certainement pas. Alors, ouvrez simplement, vous dites, « Eh bien, j'ai reçu le Saint-Esprit. » Oh, il y a simplement, les cieux tout entiers en sont remplis. Vous voyez, Dieu essaie simplement comme un, si tous les cieux tout entiers étaient une énorme borne fontaine et que vous aviez une petite fissure, il essaie d'empiler. Cette eau va essayer de se frayer un chemin à travers cette fissure. C'est comme ça que le Saint-Esprit essaie de se frayer un chemin pour entrer en vous. Comme ça, pour essayer de vous amener à y croire. Je sais que c'est la vérité. Maintenant, je crois que... Est-ce qu'il a distribué des cartes de prière? Je vais prier. Je crois qu'il l'a fait. Très bien. Comment? Où est-il? Quoi? Excusez-moi. De 1 à 50. Très bien. Nous ne pouvons pas les faire lever tous en même temps. Alors, faisons-en lever peut-être. Bon, c'est très bien. Restez là. Déplacez simplement. Peut-être que les gens dans cette petite rangée-ci peuvent reculer, afin qu'il y ait un peu d'espace pour se déplacer. Il y a un verre d'eau, je crois. Posez-la. Faites attention. Très bien. Prenons le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'il se lève. Numéro 1. Qui l'a? La carte de prière, numéro 1. C'est simplement une carte de prière avec un numéro dessus. Numéro 1, 2, 3, 4, comme ça. Numéro 1, la carte de prière. Qui a cette carte? Il y a certainement quelque chose qui cloche. Dites-le en espagnol. Comment dit-on le numéro 1 en espagnol? Uno, uno. Qui a cette carte? Numéro 1. Que dites-vous? Très bien. Juste ici. Numéro 2. Qui l'a? Numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Tenez-vous juste ici. Nous formerons une ligne. Hein? Oui, c'est très bien. Très bien. C'est très bien. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'ils s'avancent. Venez de ce côté-ci, si vous le voulez bien. Si vous ne pouvez pas vous lever maintenant, levez la main. Nous veillerons à ce que vous veniez ici. Nous y veillerons. Quelqu'un va vous porter jusqu'ici. Voyez? 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qu'ils s'avancent. De 1 à 20 maintenant. Mettez-vous en ligne ici. Très bien. C'est ça. Maintenant, si vous avez vos cartes, avancez-vous, mes amis. Ne restez pas là où vous êtes, parce que vous empêchez quelqu'un d'autre d'en profiter. Voyez-vous? N'ayez pas peur de venir. si vous avez pris votre carte. Venez, si on vous donne une carte. Maintenant, mon garçon vient d'abord avec ses cartes. Il se tient ici et les mélange. 50 ou 100 ou quoi qu'il fasse. Il va jusqu'au bout de la ligne. On donne à n'importe qui. Une personne pourrait avoir 1, l'autre 10, l'autre 50. Et l'autre 90, comme ça. Nous ne savons pas où elles sont. Elles sont toutes dispersées. Ça fait en sorte que mon garçon ne sait pas ce qu'il en est. Alors, mon garçon ne sait pas à partir d'où je vais appeler ce soir-là. En effet, vous voyez, je ne le sais pas moi-même. Je pourrais commencer. Combien ont déjà assisté à des réunions et savent que je saute d'un numéro à l'autre? C'est très bien, voyez? Alors souvent, les gens ont peur de venir parce que leurs péchés sont dévoilés ici. Maintenant, si vous avez fait quelque chose de mal et que vous ne voulez pas que ce soit dévoilé, vous feriez mieux de ne pas venir, c'est tout, parce qu'il le fera certainement. Ah oui. Combien savent que c'est vrai? Oui, monsieur. Certainement que c'est vrai. Maintenant, si vous vous sentez culpabilisé et sous l'emprise du péché, eh bien, ne venez surtout pas. Mais si vous ne l'êtes pas, si vous êtes sous le sang, venez. Voyez? Très bien. Bon, très bien. Eh bien, nous allons commencer ici et voir jusqu'où nous pouvons aller. Maintenant, combien ici sont malades et sont venus mais n'ont pas reçu de carte de prière? Vous êtes arrivés trop tard ou quelque chose comme ça. Levez la main. Partout dans la salle. Très bien, vous n'avez pas de carte de prière. Or, une petite femme était passée dans une foule. Peut-être qu'elle n'avait pas de carte de prière, mais elle a touché le bord de son vêtement. C'était réglé. Très bien. Elle a touché le bord de son vêtement et elle était guérie. Maintenant, vous, dans l'auditoire, qui croyez de tout votre cœur, vous qui croyez réellement ceci de tout votre cœur, dites simplement, « Seigneur Jésus, je crois ceci de tout mon cœur, et je vais t'accepter, et je crois que... » Je sais que Frère Branham ne me connaît pas, ou qu'il ne sait rien à mon sujet, et si seulement tu me permets de toucher ton vêtement, eh bien la Bible dit, maintenant, les ministres en témoigneront. La Bible dit que Jésus-Christ est maintenant même un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Est-ce vrai? Un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Il l'est maintenant même. Eh bien alors, s'il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, comment agirait ce souverain sacrificateur quand il serait touché? S'il est le même Jésus qu'il était à l'époque, il agirait de la même manière. Il ne peut pas changer ses manières de faire. Il ne le peut pas. Si à l'époque il avait dit, eh bien, je les ai sauvés parce qu'ils croyaient en moi. Mais aujourd'hui, je vais les sauver parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Il ne peut pas faire ça. Il doit toujours s'en tenir à l'attitude qu'il a adoptée au départ. Voyez, quand Dieu prend une décision, elle est parfaite. Elle ne peut jamais être changée. Plus jamais. Dieu ne change jamais son programme. Voyez, alors, s'il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, et que vous l'avez touché avec votre foi. Or, il n'a pas d'autre main sur la terre que la mienne et la vôtre. Pas vrai? Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Or, le cep ne porte pas de fruit, n'est-ce pas? Les sarments portent du fruit. Donc, le cep ne fait que donner l'énergie au sarment. Mais voyez-vous, le sarment, le cep n'est pas fait pour... Voyez, il est dans la gloire. Il est le Saint-Esprit. Or, il ne porte pas le fruit, mais il nous donne l'énergie à vous et moi, pour que nous puissions nous comprendre les uns les autres, par des voix qu'il parle à travers nous et accomplit son œuvre pour confirmer la commission qu'il nous a confiée. Vous le comprenez maintenant, tout le monde? Maintenant, priez et dites, « Seigneur Jésus, je vais croire ceci de tout mon cœur. Je vais vraiment le croire de tout mon être. Et je crois que tu vas me guérir. Et je vais de tout mon cœur essayez de toucher le bord de ton vêtement, ayant confiance que tu me rétabliras. Maintenant, croyez simplement cela, ou un bien-aimé. Maintenant, je vais vous demander, avec ce que... Maintenant, vous savez que je suis pentecôtiste. Je crois dans le fait de pousser des cris, de louer le Seigneur. Mais je vais vous demander de faire ceci. Maintenant, quand on s'avance, je veux que vous soyez aussi respectueux que possible. Alors, tenez-vous caché maintenant. Rejetez tous vos doutes et dites simplement, « Maintenant, Seigneur, aide-moi. » Dieu le fera, pourvu que vous le croyiez. « Bon, maintenant, voici une femme. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Bon, quelle que soit la personne qui est ici, parfois, je ne sais pas ce que je dis. Si ça descend sur moi, c'est une vision. Alors si vous, m'entendez-vous bien maintenant? Très bien. Maintenant, soyez vraiment respectueux. Bon, voici une femme. Bon, voici une belle image de la Bible. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas. Eh bien, vous me connaissez peut-être, en sachant que je suis Frère Branham, mais je ne vous connais pas du tout. Bon, ceci, c'est une image semblable à celle de Jean 4. Jésus a rencontré une femme qu'il n'avait jamais vue ou elle ne l'avait jamais connue. Elle savait qu'il était juif, mais c'est tout ce qu'elle savait. Ensuite, Jésus a parlé à cette femme pendant un moment. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de contacter son esprit. Voyez, il fallait qu'il passe par la Samarie. Et alors qu'il passait par la Samarie, il a rencontré cette femme. Pourquoi? Le Père l'a conduit en Samarie. Va en Samarie. Il ne savait pas quoi faire. Cette femme est arrivée. Il s'est dit, peut-être que c'est ce que le Père veut. En effet, il a dit, après qu'il avait guéri l'homme à la... qui était infirme, pas infirme, mais je suppose qu'il avait peut-être une maladie qui durait depuis longtemps. Dans Jean 5, le chapitre suivant, je crois que c'est là. Il est allé à la piscine de Bethesda, et il y avait là un homme qui était infirme depuis plusieurs années, qui avait une infirmité. Eh bien, il pouvait marcher. Mais un ange descendait et agitait l'eau de la piscine. Vous, les frères, vous savez de quoi je parle. Et alors, Jésus est passé par là. Et l'homme a dit, il a dit, à propos d'aller dans la piscine, il a dit, « Je n'ai personne pour m'aider. Quelqu'un peut faire mieux que moi. Il peut me devancer dans la piscine, autrement dit. » Il a dit, « Prends ton lit et va dans ta maison. » Il a pris son lit et a poursuivi sa route. Or, Jésus n'a guéri personne d'autre qui était là. Il y avait une foule de gens. Ils étaient des milliers. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Voilà quelque chose pour l'Assemblée, pour nous, les ministres. Un Dieu plein de compassion, pas vrai? Une foule d'estropiés, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, toutes sortes de gens. Est-ce que la Bible dit ça, frère? Et il est allé directement vers un homme qui avait une infirmité. Il n'était pas aveugle. Il pouvait marcher. Il avait peut-être un problème de prostate. Il avait peut-être une tuberculose dont il souffrait depuis longtemps. Ça n'allait pas le tuer. Il en souffrait depuis 28 ans et ça n'allait pas le tuer. Mais il est allé vers cet homme-là. Pourquoi? Alors, il a simplement guéri cela et il est reparti. Et s'il était venu à Tempe ce soir et qu'il avait fait cela, on le critiquerait sur le champ. Pas vrai, frère? On le critiquerait. Mais souvenez-vous, Jésus connaissait cet homme. Il savait qu'il était dans cet état depuis tout ce temps. Est-ce bien ce qu'il a dit? Or, quand les Juifs ont trouvé cet homme, il leur a dit qui l'avait fait. Ils ont trouvé Jésus et ils l'ont interrogé. Pensez-vous qu'on l'interrogerait ce soir? Certainement. Qu'est-ce qu'il a dit? En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. Pas vrai? Alors, selon sa propre parole, il ne faisait rien avant que Dieu lui ait montré dans une vision ce qu'il devait faire. Vous souvenez-vous d'Élie dans notre prédication de ce soir? J'ai fait tout ceci sur ton ordre. Tout prophète du Seigneur ne fait que ce que le Seigneur le conduit à faire. Maintenant, appliquons cela ici. Or, Christ est le Saint-Esprit qui est ici, à l'intérieur, maintenant. Maintenant, je crois que je me suis senti conduit à venir en Arizona. Jésus s'est senti conduit. Il avait besoin de passer par la Samarie. Je me suis senti conduit à voir le service de guérison à Tempe ce soir. Je n'en ai jamais eu un ici. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, il se trouve que vous êtes la première personne ici. Voilà, Jean 4 qui se répète exactement. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Je ne sais rien du tout. Il se peut que vous soyez une pécheresse. Vous êtes peut-être une hypocrite. Vous vivez peut-être en adultère. Vous êtes peut-être une sainte remplie de piété. Vous êtes peut-être malade. Vous vous tenez peut-être ici pour quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être des problèmes financiers. Je ne sais pas ce que vous avez. Je ne sais rien à votre sujet. En effet, c'est vrai, je ne sais rien. Maintenant, si je vous suis inconnu, au cas où il y aurait un incroyant assis ici, levez la main si nous le sommes. Si c'est vrai, voyez, maintenant, c'est le Saint-Esprit en contactant son esprit. Maintenant, nous sommes tous les deux ici, un homme et une femme, exactement comme eux. Et Jésus lui a parlé jusqu'à ce qu'il trouve ce qui n'allait pas chez elle. Pas vrai? Maintenant, tous ceux qui savent que c'est vrai, dites « Amen ». Il a trouvé quel était son problème. Et il lui a dit quel était son problème. Et elle a dit « Seigneur, tu dois être prophète ». Vous voyez, il n'avait pas eu de prophète depuis environ 400 ans. Elle a dit, « Tu dois être prophète. » Or, nous savons que, quand le Messie viendra, ceci sera le signe du Messie. Il nous annoncera toutes choses. Pas vrai? Eh bien, Jésus a dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Maintenant, si c'était là le signe du Messie en ce temps-là, et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, seulement sous la forme du Saint-Esprit, en utilisant ma chair, mon esprit, alors que je le lui remets, et s'il me disait quel est votre problème, vous sauriez si c'est vrai ou pas, parce que vous en êtes témoin. Maintenant, si je tenais un service de guérison, que je m'avançais et que je disais, gloire à Dieu, vous êtes malade, sœur? Oui, j'ai la tuberculose. Gloire à Dieu, je vous imposerai les mains. Alléluia, recevez votre guérison. Maintenant, beaucoup de braves frères, comme frère Oral Roberts et les autres, ce sont de vrais hommes de Dieu. C'est leur don. Ils disent, gloire à Dieu, je le crois. Et vous? Oui, je crois que vous vous rétabliriez. Bien sûr, je le crois. Oui, je crois. Vous iriez voir votre pasteur, si vous êtes une chrétienne, ou quelque chose comme ça. Je crois que vous le feriez. Mais maintenant, qu'en est-il s'il vient et vous dit quelque chose que vous avez fait? Là, vous sauriez si c'est vrai ou pas. Et s'il peut vous dire ce qui a été fait, sûrement que vous pourriez croire s'il vous disait ce qui va arriver. Pas vrai? Maintenant, combien croient que ce serait un témoignage s'il le fait, qu'il est Jésus-Christ, le Messie, le même hier, aujourd'hui, éternellement? Or, souvenez-vous, ce n'est pas moi. Non, je suis comme ce microphone, parfaitement muet. Comment le saurais-je? Je vous ai déjà déclaré, à vous et à elle, et l'un à l'autre, que nous ne nous sommes jamais vus. Donc, il faudra que ce soit une puissance qui vient de quelque part. Maintenant, vous pourriez croire comme certains d'entre eux l'ont fait et dire, « Tu es le Fils de Dieu, le Roi d'Israël. » Ou vous pourriez dire, « C'est un démon, un diseur de bonne aventure, une espèce de mauvais esprit. » Là, ça, c'est entre vous et Dieu. Voyez, alors, c'est à vous d'en juger. Voyez, tout dépend de votre attitude à son égard. Mais pour moi, c'est Jésus-Christ. Ça l'est pour moi, à cause de sa promesse. Et maintenant, s'il a fait une promesse et m'a donné une commission, et qu'il m'a donné ses signes, et il y a bien des années, j'étais ici avec vous, et il m'a donné un signe, si vous mettiez votre main sur la mienne, combien s'en souviennent? Alors, je pouvais vous dire, si je restais tranquille pendant quelques minutes, je n'avais aucun contrôle, mais je disais que vous aviez une tumeur, ou quoi que ce soit d'autre, c'était parfait. Pas vrai? Et je vous ai dit qu'il m'a dit, si j'étais respectueux et que je croyais, et que je restais libre, c'est-à-dire de ne pas quêter d'argent. Et je n'ai jamais ramassé d'offrande de ma vie, voyez? Et tout, et que je lui sois fidèle, que cela s'accomplirait là, quand je révélerai aux gens le secret même de leur cœur, une autre chose. Ils ne peuvent pas nier ça. Voyez, vous vous souvenez que j'ai prophétisé cela? Maintenant, cela s'est accompli. Voyez, maintenant là, soyez respectueux. Vous dites, qu'attendez-vous, frère Branham? C'est lui que j'attends. Je ne connais pas cette femme. S'il ne moint pas, je ne peux pas le faire. C'est tout. Combien ont déjà vu la photo de cet ange du Seigneur? Ce feu, cette colonne ardente, ils l'ont prise. Elle est maintenant partout dans le monde. C'est à Washington, D.C., dans la salle des arts religieux. Le seul être surnaturel qui ait jamais été prouvé par la science. Je vais juste vous parler un instant, établir un contact. Oui, gloire au Seigneur. Ah oui, le voici. Ah oui, je ne peux pas vous dire comment je le sais, mais je sais qu'il est ici même maintenant. Voyez, c'est vrai, c'est ici même maintenant. Grâce soit rendue au Seigneur. Voyez, le voici maintenant. Vous avez une maladie de la peau pour laquelle vous voulez que je prie. Si c'est vrai, levez la main. Maintenant, croyez-vous cela de tout votre cœur? Bon, vous direz peut-être que je l'ai deviné, voyez? Maintenant, regardez bien et voyons si nous l'avons deviné, voyez? Soyez vraiment respectueux. Elle a l'air d'être une gentille personne. Bon, en ce moment, je ne pourrai pas vous dire ce que je vous ai dit au départ. Maintenant, juste un instant. Oui, une maladie de peau, c'est ce que vous avez. Vous souffrez de cela depuis un certain temps. On a même prié pour vous, pour cela. Puis, vous avez quelque chose qui ne va pas au côté. C'est vrai, cela a été causé par un accident d'automobile. C'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, vous croyez, pas vrai? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande sa guérison. Amen. Allez, continuez à croire. Croyez-vous qu'il est le même hier, les lumières du soir du Saint-Esprit? Bonsoir. Vous et moi, nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Si je pouvais vous guérir, je le ferais. Je ne représente que le guérisseur, en tant qu'ambassadeur mandaté, priant pour sa confirmation. Mais si Dieu me dit pourquoi vous êtes ici, croirez-vous que je suis son prophète ou son serviteur? Vous le croirez? Une chose, c'est qu'il y a une ombre autour de vous. Ça montre que vous souffrez de nervosité. Vous souffrez mentalement, un état de nervosité. Ça empire le soir, quand le soleil commence à se coucher. C'est vrai. Et puis, autre chose, vous avez une tumeur qui vous inquiète. Croyez-vous que Dieu peut me dire où se trouve cette tumeur? C'est sur le sein droit. C'est ça? Croyez-vous maintenant? Maintenant, c'est quelque chose sur moi qui déclare cela, qui sait cela. Pas vrai? Croyez-vous que c'est Dieu? Alors Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Que Dieu vous bénisse. Amen. » Ayez la foi, ne doutez pas. Croyez simplement avec tout ce qui est en vous. Le petit homme là, qui porte la cravate à rayures, arrêtez de vous faire du souci. Cette arthrite va vous quitter, pourvu que vous le croyez de tout votre cœur. Voyez, vous étiez assis là, vous attendiez cela, n'est-ce pas? Et vous n'avez pas de carte de prière. Vous n'en avez pas besoin. Croyez-le. C'est tout. Vous voyez, sa foi a touché quelque chose. Vous savez que cet homme ne m'a pas touché. Il est à 6 mètres de moi. Pas vrai? Mais qu'est-ce qu'il a touché? Le souverain sacrificateur. J'ai regardé ici, cette femme. Il y avait un homme. J'ai regardé. C'était un homme. J'ai dit, c'est impossible. C'est une femme. J'ai regardé. Il y avait un homme. J'ai observé cette lumière qui est suspendue ici, qui s'est déplacée et qui s'est tenue au-dessus de lui. Je l'ai vu essayer de sortir du lit, comme ça. C'est ça, voyez? Le voilà, qu'il soit la preuve. C'est ça, vous étiez assis, en train de prier pour cela. Pas vrai? Croyez de tout votre cœur maintenant, et vous vous rétablirez. Alors, si tu peux croire, tout est possible. Ayez simplement la foi. Maintenant, soyez vraiment respectueux. Excusez-moi, j'observais la lumière qui se déplaçait dans le bâtiment. J'observais cela, vous voyez? Maintenant, je veux vous parler un instant. Elle me semble être une bonne personne. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Le Seigneur connaît vos problèmes. Il me connaît. Il vous connaît. Nous sommes un homme et une femme. Nous nous rencontrons ici pour la première fois. Par l'Esprit, vous êtes une chrétienne. Et je peux sentir la vibration qu'il y avait avec votre esprit. Vous savez qui vibre. Et je sais que vous n'êtes pas une autostoppeuse. Vous êtes une chrétienne, voyez-vous. Donc c'est ce que je veux dire par autostoppeuse. C'est simplement d'aller d'un endroit à l'autre, vous savez. Vous êtes née de nouveau, voyez. Vous êtes une vraie chrétienne. Je sens que vous êtes la bienvenue, voyez-vous? Et le Saint-Esprit, ici, accueille cet esprit, parce que c'est un esprit similaire, voyez? Nous sommes frères et sœurs. Vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous vous tenez ici pour quelqu'un d'autre. Un de vos amis souffre d'oppression démoniaque. Vous croyez cela? Mettez ce mouchoir sur lui et ne doutez pas. Cela le quittera. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi en Dieu. Croyez simplement de tout votre cœur. Bonsoir, madame. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Maintenant, quelqu'un, quelque part. Oh Dieu, où était-ce? Quelque part dans l'auditoire. Quelqu'un, quelque chose s'est passé. Comment le savez-vous, frère Branham? Eh bien, je le sais, c'est tout. Voyez, voyez, c'est comme si quelque chose vous arrachait la vie, voyez-vous? quelque chose s'est passé. Quelqu'un a été guéri quelque part. Je ne sais pas où c'était. Mais peut-être qu'il me le montrera de nouveau. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, madame. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Vous êtes ici dans un but, peut-être pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être financier, familial. Peu importe ce que c'est, Dieu peut me le dire. Le croirez-vous? Vous saurez si c'est la vérité. Il y a sans cesse une jeune personne qui apparaît ici. Une vision apparaît pour une jeune personne. Maintenant, croyez de tout votre cœur et Dieu l'accordera. Voyez, si je peux vous le dire, vous savez que si je ne vous connais pas, il faudra que ça vienne d'une puissance surnaturelle. Vous souvenez-vous de ma prédication de ce soir, ce dont j'ai parlé? Maintenant, regardez. Peut-être, si je le faisais, comme cet ange qui a tourné le dos. Maintenant, et qu'en serait-il si je vous tournais le dos comme ceci? Voyez, très bien. Maintenant, dites simplement, au Seigneur Jésus, ô Dieu, dans votre cœur, révèle à Frère Branham pourquoi je suis ici, ou quelque chose à mon sujet, et voyez s'il le fait. Oui, je peux voir cette femme en ce moment. Elle souffre d'un problème intestinal. C'est exact. Ce sont des excroissances dans les intestins. C'est vrai. Madame Caton, vous pouvez rentrer chez vous maintenant et être rétablie, si vous le croyez de tout votre cœur. Allez et croyez. Continuez votre chemin. Croyez-le. Croyez-vous? Ayez la foi. Vous rendez-vous compte que le Dieu même qui a écrit la Bible? Agit dans cette humble petite église, ici ce soir, dans cette réunion ici. Maintenant, nous aussi, nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, monsieur. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu de ma vie. Nous sommes totalement inconnus. Maintenant, cela m'affaiblit, les amis. C'est cette dame qui est assise là derrière, qui souffre de constipation, qui est assise dans la deuxième rangée à partir de l'arrière, juste sur le côté de cette rangée, là. C'était vous, tout à l'heure, qui étiez ici. Si vous croyez de tout votre cœur, cela vous quittera. Qu'en est-il de ce bébé qui a cette allergie? Croyez-vous que Dieu va le guérir? Voilà, gloire. Le diable a perdu ça. Il l'a perdu. Que Dieu vous bénisse, sœur, frère. Ayez foi en Dieu. C'est tout ce dont vous avez besoin. Cela quittera le bébé. N'oubliez pas. Qu'est-ce qu'ils ont touché? Qu'est-ce que cette dame a touché pour son bébé? Je ne connais pas ces gens. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Si nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, levez la main, là, mes amis, là où cela se trouve. Cette, la dame, levez la main. C'est ça. Elle était là. Elle priait pour ce bébé. Et le Saint-Esprit a continué à agir là, quelque part. Et là, j'ai vu où c'était. Et j'ai vu le petit bébé avec ce problème-là. La voilà. Le bébé sera guéri, sœur. Ne vous en faites pas. Pourquoi? Il y a vraiment de la lumière partout là-bas maintenant. Je sais que Dieu a répondu. Voyez, cela quittera le bébé. Je sais que tout ira bien. Oui, ça vient de partout, de l'auditoire maintenant. C'est, on ne peut pas distinguer. C'est vraiment partout. Nous en sommes témoins. Ne croyez-vous pas plus maintenant que vous ne croyez tout à l'heure? Certainement. Vous voyez que c'est, ça peut arriver à chacun de vous, pourvu que vous le croyez. Voyez, croyez-le, c'est tout. Excusez-moi, monsieur, je ne... Vous savez, je ne suis pas hors de moi, mais je deviens vraiment faible. Et je... Jésus, une femme, a touché son vêtement, et il a dit, « Je sens que de la vertu est sortie, c'est-à-dire de la force. Et si lui, le Fils de Dieu, qu'en est-il de moi ?» Un pécheur sauvé par la grâce. Maintenant, voici un homme. Que cela arrive à cet homme. Alors, croirez-vous tous? Quelqu'un connaît cet homme? Est-ce que quelqu'un ici connaît cet homme? Oh oui, monsieur. Très bien. Maintenant, vous savez, voyons si c'est vrai ou pas. Cet homme m'est totalement inconnu. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Nous sommes totalement inconnus l'un pour l'autre. Mais le Saint-Esprit peut me révéler pourquoi vous êtes ici, ou ce que vous voulez, ou quelque chose à votre sujet, que vous savez que je sais, que je ne sais pas. Alors, cela vous convaincrait qu'il faut que ce soit le Saint-Esprit. Est-ce que cela vous convaincrait tous? Et vous ferez savoir que le même Saint-Esprit qui est ici est aussi dans l'auditoire, en chacun de nous. Votre problème, c'est un problème rectal. C'est un kyste dans le rectum. Il y a quelqu'un d'autre ici qui prie à ce sujet. C'est votre femme là-bas. Elle a des maux de tête persistants tout le temps. C'est vrai. Vous avez aussi un enfant là. C'est exact. Croyez-vous que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez cet enfant? C'est une maladie du sang. Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? Me croirez-vous? Vous êtes un ministre. Vous êtes le révérend Monsieur Mann. Rentrez chez vous. Soyez rétabli. Croyez-vous de tout votre cœur? Donnez simplement la louange à Dieu. Croyez-vous, madame, de tout votre cœur, assise là? Croyez-vous? Allez manger votre souper. Votre problème d'estomac vous quittera. Et tout ira bien pour vous. Votre mal de dos a aussi disparu, sœur. Alors, vous pouvez traverser la pièce et croire de tout votre cœur que Dieu va vous rétablir. Le croyez-vous? Allez, poussez des cris et dites « Gloire au Seigneur ». Très bien, de tout votre cœur. La nervosité est une mauvaise chose, mais Dieu peut la guérir. Croyez-vous cela? Repartez simplement en vous réjouissant, en disant « Merci Seigneur, Dieu vous rétablit. Votre ventre vous dérange? Allez manger. Jésus-Christ vous rétablit. Ayez la foi. Votre dos vous fait souffrir, n'est-ce pas? Allez, croyez. Jésus-Christ vous rétablit. Ayez la foi. De la nervosité, vous croyez que Dieu vous guérira? Allez, soyez guéris au nom de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus-Christ n'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Or, Jésus a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Pas vrai? Or, est-ce que Jésus a dit ceci? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Combien y a-t-il de croyants ici? Très bien. Combien veulent être guéris? Levez la main. Alors, imposez-vous les mains les uns aux autres. Vous êtes des croyants. C'est vrai. Il tient sa parole. Le croyez-vous? Si vous le croyez, vous verrez quelque chose arriver que vous n'avez jamais vu auparavant. Si vous le croyez, maintenant, courbez la tête. Posez. Ne priez pas pour vous-même. Priez pour la personne sur laquelle vous avez posé vos mains. Priez maintenant, sincèrement, croyez sincèrement, posez vos mains sur quelqu'un et priez. Maintenant, je vais prier ici. Père céleste, nous venons au nom du Seigneur Jésus. Nous venons parce que ta parole a été confirmée. La commission est confirmée. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est en notre présence, sous la forme du Saint-Esprit. Ô Dieu, ces gens sont ton peuple. Ils souffrent. Satan les a liés. Ils savent que tu es ici. La confirmation de ta présence est ici. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Satan, tu as perdu la bataille. Sors d'eux, Satan, au nom de Jésus-Christ. Je t'adjure de quitter cet auditoire et de sortir de ces gens afin qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Si vous le croyez, levez-vous et donnez gloire à Dieu. C'est ça, voilà, levez les mains et donnez-lui la louange. C'est confirmé. Confessez et croyez que votre guérison est venue.